On en jase le midi à Boulevard 101, émission de midi à 14h avec Jeff Fortin. Et pour les trois prochaines semaines, Mathias Turcotte et Antonine Iaccarini. Comment ça va, les amis?
Ça va très bien, ça va très bien. On a une belle semaine, un beau soleil. J'ai comme l'impression qu'on a eu des temps pluvieux dans les dernières semaines. Fait que vraiment avoir une semaine d'été, entre guillemets quand même, là, c'est pas du 30 degrés, mais c'est le fun en maudit pour vrai.
Mais hein, que c'est plaisant. Antonine, ça va toujours bien?
Toujours bien. Puis c'est vrai que pour moi, c'est la température parfaite, mais il pleut quand même quelque chose, il pleut des nouvelles. Je trouve tellement qu'on a beaucoup de nouvelles.
Ah oui!
Ça arrête plus.
Et vous savez qu'à l'émission, on en jase, justement, on n'arrête pas. De midi à 14h, on vous bombarde d'actualités. Évidemment, il y aura le caucus Iaccarini dans quelques minutes. C'est la rentrée parlementaire. Par la suite, on va avoir Catherine Champagne-Jourdain, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord, en entrevue. Antonine, tu me partageais, c'est la première femme à être nommée ministre qui provient des Premières Nations.
Absolument. Il y a eu des députés au fil du temps. Premier député autochtone à l'Assemblée nationale, c'est un député du PQ, Alexis Wawalanoat, il y a plusieurs années maintenant. Mais Catherine Champagne-Jourdain, c'est la première femme autochtone à être ministre au Québec. C'est quand même pas rien. Puis en plus, aujourd'hui, c'est la Journée nationale Vérité-Réconciliation.
Exactement. Donc voilà pourquoi on va parler avec Mme Champagne-Jourdain. On va également parler de ses différents défis en tant que ministre de la Famille. On va parler avec Marc Tanguay, porte-parole en santé et pour la capitale nationale au niveau du Parti libéral du Québec, c'est l'ex-chef par intérim. Donc évidemment, on va parler avec lui de la rentrée parlementaire. Rémi Villemur sera là pour sa chronique. Hugo Fournier, président-directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, sera avec nous pour commenter le rapport de la coroner Nathalie Lefebvre. Elle a formulé 9 recommandations à la suite d'un décès d'une jeune fille de 12 ans. Ça suivait un cas d'intimidation l'année dernière. Et on va terminer l'émission en feu avec l'ex, faut l'appeler comme ça maintenant, l'ex-maire de Lévis, Gilles Laulier, qui fait sa tournée médiatique d'adieu. Mais avant, Mathias, il s'est passé quelque chose d'énorme ce matin au niveau policier, c'est-à-dire une perquisition à l'ensemble de la province qui vient affaiblir là, justement les groupes criminalisés.
Oui, énorme opération policière. On parle de 200 policiers qui ont été déployés partout à travers la province. Puis le point d'ancrage de cette opération-là était vraiment le service de police de la ville de Québec, en collaboration notamment avec Longueuil, Laval et l'Ontario. On parle de 13 arrestations partout à travers la province. Donc autant de femmes que d'hommes. Tous âgés entre 18 à 51 ans, sauf qu'il y avait un mineur au moment de l'acte. Donc ça, c'est les personnes qui ont été arrêtées. Une arrestation seulement dans la ville de Québec, elle a été réalisée au centre de détention de la ville. 14 perquisitions au total, sont toujours pas terminées d'ailleurs. Puis c'est 14, c'est énorme, notamment saisie de cellulaires et matériel informatique. Toutes ces arrestations-là sont liées à quoi? Pourquoi on a décidé de mettre en place?
C'est une grosse opération.
C'est énorme. Toutes ces arrestations-là sont liées au meurtre de Jennifer Morin qui remonte en décembre 2024. Elle avait été tuée dans sa résidence à Charlebourg.
C'est une erreur sur la personne, hein?
Exactement. Puis ça a été confirmé aujourd'hui. C'est une erreur sur la personne. Le but n'était pas de tuer Jennifer Morin, mais plutôt on ciblait son fils, Jeffrey Morin, qui est activement lié à la Blood Family Mafia. Présentement, Jeffrey Morin qui est détenu. Ce meurtre-là, on a pu retracer plusieurs personnes qui étaient directement liées au meurtre, donc partout à travers la province. Puis ça remonte en décembre dernier, donc ça a quand même été une opération de plusieurs mois, une enquête de plusieurs mois. Et d'ailleurs, ce matin, au point de presse, Marie-Manon Savard, une enquêtrice, nous explique en gros le déroulement de l'enquête.
Bien, l'enquête a débuté le 16 décembre, au moment où les policiers ont été avisés de la disparition de Mme Morin, qui ne s'était pas présentée à son lieu de travail. Et par la suite, l'enquête, avec tous les partenaires internes, on parle d'identité judiciaire, on parle d'enquêteurs, écoutez, des crimes technologiques, tous les membres qui sont mis à contribution. Et un très, très grand travail d'analyse qui nous a permis de procéder à l'arrestation de ces 13 personnes-là aujourd'hui.
C'est complètement fou, puis ça a été un peu partout, là, Longueuil, Laval...
L'Ontario, ça s'est rendu en Ontario parce qu'on avait des personnes qui étaient liées à ce crime-là qui était en Ontario. Donc, c'est une opération massive. Environ 100 policiers du SPVQ qui ont participé à l'opération. Donc, vraiment, grosse opération. Puis, du côté du SPVQ, ce qu'on nous dit, c'est qu'on continue dans la mouvance d'arrêter la violence urbaine. C'est Pierre-Olivier Lévesque, le porte-parole, qui a dit ça ce matin.
C'est sûr que c'est un coup de hache qu'on donne sur toute la violence urbaine. On travaille fort pour réduire ça. On a une stratégie PrésAP qui a été adoptée en novembre 2024 pour des rues et des environnements sans armes de poing. Jusqu'à maintenant, on y travaille fort, on met beaucoup d'efforts en prévention, beaucoup d'efforts sur le terrain. Nos efforts sont visibles, on vous le démontre aujourd'hui. On vous le démontre aussi depuis les dernières semaines, les derniers mois. On envoie beaucoup de communiqués en lien avec des opérations qui ont eu lieu pour la violence urbaine, des perquisitions qui ont lieu, il y a des armes qui sont saisies, il y a des stupéfiants qui sont saisis.
C'est fou comment le SPVQ est performant avec justement leur nouvel enquêteur sur les fugitifs. On a réussi à arrêter Picturmel. Là, on réussit à redonner un autre coup de barre justement au crime organisé. Franchement, on peut être fiers de notre service de police. Et là, dis-moi, est-ce qu'il y a des gens qui vont comparaître dès aujourd'hui au palais de justice?
Oui, exactement. Donc, sur les 13 arrestations, c'est déjà 6 personnes qui sont confirmées pour comparution cet après-midi au palais de justice de Québec. Donc, 6 personnes qui vont comparaître. Les accusations qui sont portées, c'est meurtre d'une personne et complot pour meurtre de 2 personnes. Donc, on va peut-être avoir plus de détails sur toute la situation pendant leur comparution.
Merci beaucoup, Mathias, pour ces nouvelles de dernière minute et t'être déplacé au point de presse ce matin qui avait lieu à 11h.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Gros job de Mathias Turcotte. Et là, il y en a un qui a un gros travail à faire aujourd'hui, c'est François Legault. On y est?
Ça Antonine? Y est.
Depuis la mi-juin qu'on attend cette journée-là, parce que souviens-toi, la mi-juin, on avait dit « On va refaire un conseil des ministres. Ouais. » Puis là, ça a traîné dans bout tout l'été. Et là, ce fameux conseil des ministres-là, ce nouveau caucus, caquis, va être à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
C'est la rentrée. Hein? La rentrée a été repoussée de 2 semaines à peu près parce qu'il fallait faire le remaniement ministériel.
Ouais.
Il fallait que les ministres prennent connaissance de leur dossier parce que retour des travaux parlementaires signifie retour de la période de questions. Puis ça, c'est ce qu'on voit beaucoup aux nouvelles. Il n'y a pas juste ça, là. Mais la période de questions, c'est les porte-paroles des oppositions se lèvent et questionnent nos ministres.
Puis là, c'est là que des fois, on est comme à la maternelle.
C'est oui, tout à fait. Même, t'es généreux avec la maternelle.
Juste en disant, des fois, ou maternelle?
Écoute, non, en disant maternelle, parce que des fois, on est plus de niveau groupe de CPE. Ça dépend des jours.
Donc, mais, Nathalie Roy, l'éducatrice, à l'ordre.
À l'ordre, puis elle fait très bien son travail. Cela dit, il faut qu'on fasse notre mea culpa, là, nous, les médias, parce que quand c'est le fun, puis que tout le monde s'entend bien, puis que c'est constructif, des fois, ça fait pas l'objet de nouvelles.
Non,
on aime
flat.
Ça passer des clips où est-ce que tout le monde s'insulte, s'envoie des insultes par la tête, évidemment. Ça devrait pas être le cas aujourd'hui, Jeff, parce qu'il y a pas de période de questions comme telle. Donc, c'est le premier ministre qui fait son discours d'ouverture. On a prorogé la chance, ça veut dire qu'on commence une nouvelle session parlementaire à zéro. Tous les projets de loi ont été passés à la déchiqueteuse. Mais on va les redéposer aujourd'hui dans le cadre d'une motion. On est dans la poutine parlementaire. Mais tout ça pour dire qu'on devrait aujourd'hui avoir Simon-Jean Barrette, le leader, va se lever et va déposer une motion qui redépose tous les projets de loi en même temps, sauf peut-être quelques-uns. Il y en a un, en tout cas, qu'on sait qui ne sera pas là, c'est celui sur le régime forestier. On nous a annoncé dans les derniers jours que ça passait vraiment. La déchiqueteuse, ça meurt au feuilleton et qu'il y aura une nouvelle mouture qui sera ajoutée. Et le discours d'ouverture du premier ministre, ben, c'est ses priorités. Dans le fond, on va démontrer c'est quoi la vision du gouvernement pour la dernière année avant l'élection. On est pratiquement à un an, presque jour pour jour, de la prochaine campagne, en fait, du prochain scrutin. On a une bonne idée de c'est quoi, là, cette vision-là. Puis, d'ailleurs, je me demande ma question aujourd'hui, puis c'est ce qu'on va surveiller, si on va-tu avoir une nouveauté, quelque chose?
Bien, après le discours au Conseil des ministres, on a parlé des priorités en économie, en laïcité, en sécurité.
Non,
il va dire quoi, François, là?
Bon, puis on nous a même aussi, on a vu certains chroniqueurs bien pluggés nous parler du fait qu'on voulait faire aussi une loi Q5, donc une espèce d'équivalent québécois pour accélérer les grands projets. Moi, je m'attends à avoir plus de détails là-dessus. Mm-hmm. Probablement que le PM va nous parler aussi d'énergie. On sait que sa vision économique est très liée avec l'énergie.
Environnement, j'imagine,
ben
aussi,
là, ça,
par
c'est
la banque.
Un petit peu moins populaire, hein,
ouais,
ces temps-ci. C'est un peu moins
hip. Peut-être non.
Énergie, oui. Environnement, ouais, on veut que ça aille plus vite. Là,
on en a déjà parlé, on l'a caché vendredi dans une annonce en disant « c'est 90% 2035, salut! »
Exactement. Donc, moi, je m'attends pas à ce que l'environnement, ça soit genre, il faut faire des efforts supplémentaires pour réduire les gaz à effet de serre.
C'est pour ça qu'on a mis Bernard Drainville à l'environnement. Oui. C'est parce qu'on va faire de ça notre priorité numéro un.
Et là, moi, Antonine, il faut absolument que tu me dises quelque chose. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir une entrée fracassante de François Legault?
Yeah!
Va-t-il arriver? Tu te permets à l'Assemblée nationale?
Hey, je l'avais-tu dit qu'il y aurait des caricatures avec des gants de boxe?
Ben oui, à terre passer? Avec les... Ben oui, à terre avec les...
Oui.
J'avoue que des fois, c'est vrai que je me sens un peu comme un boxeur. Là,
ah oui, sans confiance.
Des... Hey, imaginez, il arrive avec des gants de boxe aujourd'hui. On capote, là.
Ah. C'est pas la force des...
Hey, en passant, là, la CAQ dans l'opposition, là, moi, j'étais là à l'époque. Il était champion du monde pour nous faire des mises en scène.
Oui,
je me rappelle...
Avancer!
Je me rappelle d'un François Bonnardel qui a fait un point de presse avec un petit camion dans le hot room. Il avait apporté un petit camion jouet pour parler de je ne sais trop quel dossier de transport.
Ouais.
Je me rappelle d'une Nathalie Roy qui est arrivée avec ses crucifix. Un gros crucifix, un petit crucifix, puis une règle, puis dire « Oh, vas-tu mesurer les signes religieux? » Fait que pourquoi pas le retour de la CAQ de la deuxième opposition aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense que ça va être assez solennel. C'est un moment solennel, le discours d'ouverture. C'est le jour du premier ministre. Après ça, il va y avoir toutes sortes de réactions, évidemment, à ce discours-là, mais pas de période de questions aujourd'hui. Autre élément intéressant aujourd'hui, c'est l'arrivée d'Alex Boissonneau, nouveau député péquiste d'Arthabasca. Il y a une tradition à l'Assemblée nationale, quand tu es élu en élection partielle, tu as le droit de faire un petit discours au Salon Bleu. Fait que là, il va avoir son moment à lui.
Et là, attends, parce que j'imagine qu'Alex Boissonneau va nous parler comme PSPP.
Je me suis déjà commencé, puis je m'attends à ce que ça prenne la place que ça mérite. C'est-à-dire que le Québec va devenir un pays.
Hey,
puis c'est normal que les gens en discutent puis se disent « OK, mais comment ça fonctionne? » Sachez que nos chapitres pour le Livre bleu sont prêts, donc vous allez les voir apparaître au fur et à mesure de cette session-ci. Sachez également que c'est normal que les gens s'expriment, puis c'est sain. On en vient à la conclusion que le Canada nous enlève un avenir linguistique et culturel qu'on mérite, nous enlève 90 milliards en gaspillage et on pense qu'on pourrait mieux l'utiliser. Et une fois que ces constats-là sont faits, même si c'est pas toujours simple à porter puis c'est peut-être pas favorable sur le plan électoral, nous allons le porter à 100% de manière intègre. Donc, je m'attends à ce que ce sujet-là prenne naturellement de la place. C'est sain, c'est normal.
J'adore ça qu'on s'assume dans qui on est.
Complètement assumé. Donc, ceux qui pensaient qu'à l'approche de la campagne électorale, Paul Saint-Pierre, Plamondon et le PQ allaient se calmer le discours sur la souveraineté ou commencer
à oublier ça.
On est assumé à 100%. Alex Boisson en a parlé ce matin dans son premier point de presse à l'Assemblée nationale. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que dans le discours d'Alex Boissonneau, au Salon Bleu, il va parler aussi de souveraineté.
C'est clair. Le PQ veut le marteler. Parce qu'ils ne veulent pas faire de l'électoralisme.
Ils veulent normaliser aussi cette question-là.
T'as raison.
Il y a quelques années, là, c'était comme un gros tabou. Là. Le mot en R, il ne fallait pas le dire.
Ouais,
parce que là, on était mal à l'aise. Puis
les
journalistes étaient
à l'intérieur du PQ. Puis c'était tellement, tu sais, comment je pourrais bien dire, ça devait être tellement dur à porter parce que là, les conditions gagnent.
Écoute, les journalistes partaient. Là, c'est comme, est-ce qu'il va y avoir une armée du Québec? Est-ce qu'on va garder notre monnaie? Là, c'était le festival de la question hypothétique. Mm-hmm. Le PQ, maintenant, a décidé de dire, OK, garde, c'est bien correct, posez-les toutes vos questions. Puis ce que ça fait, c'est que c'est même plus drôle de leur poser des questions là-dessus.
Ben
c'est
non.
Juste complètement assumé. On
Mais
a mis la lumière
l'avoir, notre
là-dessus.
Armée?
Ben, oui, en tout cas, si c'était moi, il y en aurait une, OK?
OK.
Puis elle serait forte, notre armée.
Mais excellent.
On sera pas un Québec pacifiste.
Mais
okay?
Non, je vais être général de l'armée du Québec.
Parfait, ça, parfait. Donc, on a ce discours assumé.
Tu
ça va continuer.
Moi, là, ça marche plus.
Non,
ça
non, c'est ça. Là. Laisse-toi pas influencer, Jeff.
Je sais pas ce que je me sens tannant. OK,
regarde, tu vois, ça marche, la stratégie de PSPP.
Ben oui.
Avant, là, OK, on parlait de souveraineté, le monde, là, je m'excuse, il partait à rire. Il y avait
T'as
du
raison.
Mépris. Il disait, oui, on disait encore là-dessus, c'est une vieille idée.
Non, mais moi, j'ai été là-dedans, là.
Ben oui.
Moi, après le référendum de 95, j'avais 17 ans, j'avais pas pu voter, OK? Mais le bout, là, où là, on s'est même parlé des conditions gagnantes, là.
Hey,
je me moquais du PQ. J'avais rien, quoi, à croire. Vous êtes le parti que le premier article, on va faire la souveraineté du Québec. Puis là, vous êtes en train de vous présenter en période électorale en disant, ben vous savez, on va attendre les conditions gagnantes. Hein, puis,
mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? C'était terrible. OK, post 95, là. C'était
c'est clair.
Puis c'est ça aussi qui arrive en ce moment avec le PQ, c'est qu'il y a toute une génération qui n'a pas voté, qui est rendu dans la population active,
ben
qui a entre 18 et 45 ans.
J'ai même pas voté au référendum.
Exactement. Donc là, il y a toute une génération qui a le goût aussi d'avoir ces discussions-là, qui n'ont pas connu nécessairement le mélodrame là, du référendum, puis les familles qui chicanent, puis tout ça. Là. Tu dis que tu avais 17 ans, moi j'avais 10 ans, je m'en rappelle, mais c'est un petit peu plus flou. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et il y a aussi... disons, l'expérience fédérale qui vient aussi alimenter les réflexions des gens. C'est qu'à un moment donné, veut pas, t'observes des empiètements sur les compétences. En ce moment, par exemple, on a le fédéral qui se mêle de notre loi sur la laïcité puis qui veut limiter le recours à la clause dérogatoire. Ça peut avoir l'air un peu d'un nuage, cette affaire-là, mais c'est très concret.
Pas d'un nuage. Puis en même temps, tu sais, les fameuses années de multiculturalisme de Justin Trudeau également ont fait très mal. Hey, je vais te relancer dans un petit souvenir de 95.
Ah oui, donc.
C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement.
Oui, quelle horreur, certain. Puis Gavin, je vais te faire entendre parce que j'avais fait une entrevue avec Jean-François Lisée.
Mais juste avant, là, ouais. Je veux juste te dire que quand Jacques Parizeau a dit ça, je m'en rappelle, par exemple.
Oui.
Mes parents ont hurlé dans le salon et ils sont allés fermer la télé puis ont dit « Tout le monde, on s'en va se coucher. »
On s'en va se coucher.
Oui, c'est ça mon souvenir.
Puis mon père, lui, qui couchait avec ses bobettes rouges du Canada, il a fait « Ah! »
Ben oui, ben oui.
Il n'y en aura plus jamais de référendum! Puis là, il s'est débouché une Molson Canadian.
Oh my my.
Okay. Mais, écoute,
une ambiance différente de chez nous.
Ouais, c'est ça. Moi, je vivais la chicane entre mon frère qui avait le drapeau du Québec sur le dos puis la face peinture en Québec puis qui avait voté oui puis mon père qui avait voté non. Puis qui gardait son pays, c'est extraordinaire.
Bonjour l'ambiance.
Ouais. Voilà, j'en console un. Puis je dis à l'autre, hey, pas trop fort. Oh. Ton fils est en train de pleurer sa vie. M'en fous, le Canada!
Oh my God.
Jean-François Lisée, sa réaction, parce que c'est lui qui écrivait les discours de Jacques Parizeau quand Jacques Parizeau sortit cette fameuse phrase.
Ben, c'était un effet de surprise. Je savais qu'il était de très mauvaise humeur. Mais je savais pas, je pensais pas qu'il allait dire ça parce que de toute façon, on savait très bien que si on voulait gagner le référendum, le vote ethnique, comme il l'a dit, n'était pas un facteur important. Je veux dire, il avait dit quelques mois plus tôt, ben, même s'ils votent tous pour le non, on peut gagner. Alors donc, nos scénarios de victoire ne présumaient pas qu'on avait une partie significative du vote allophone. Alors donc, moi, j'ai été étonné de ça parce que, pour moi, c'était pas un facteur.
Donc, c'est ça. Alors, c'était pas un facteur, mais Jacques est parti sur une envolée,
ouais,
qui a fait très mal, ben, qui a coûté son poste de premier ministre également. C'est Lucien Bouchard là, qui est venu.
Puis M. Lisée a souvent répété qu'à son avis, M. Parizeau avait raté sa sortie à cause de cette phrase-là. Hey, tu savais pas que tu allais me ressortir toutes ces affaires-là aujourd'hui.
Hey,
on est dans nostalgie.
Ça. Mais tout ça, dans ma chaîne,
l'anniversaire du référendum s'en vient très bientôt.
Hein,
ça fait 30 ans, si je ne m'abuse.
Là, on a des bonnes questions d'auditeurs, justement. Puis, des fois, c'est drôle parce qu'il y a des auditeurs qui nous écrivent, vous « Arrêtez de parler de ça, référendum, souveraineté, mais à chaque coup qu'on en parle, bang, les textos déboulent. »
Ça fait réagir.
Exactement. Question ici, petite question pour vous deux. Avez-vous le rêve d'un pays? Moi, je l'ai dit, je reste à prendre. Mm. Je suis comme ça. Mais pour de vrai, de la façon que le Canada est géré depuis l'ère Trudeau, j'ai été longtemps comme mon père à dire « Vive mon Canada ». Et Justin Trudeau a fait mal à mon Canada.
Hey,
je t'apprends.
Je pense que t'es vraiment symptomatique de tellement de choses que j'entends en ce moment, des gens qui étaient complètement opposés à l'idée, puis qui là sont comme, ben, convainquez-moi.
Ah, moi, je suis comme ça. Je l'ai dit à Pascal Paradis quand il était en entrevue. Je l'ai dit à Paul Saint-Pierre Plamondon quand il était en entrevue. J'ai dit, je souhaite vraiment que vous continuez votre démarche jusqu'au bout pour le référendum. Je suis à conquérir.
Intéressant.
Venez me chercher.
Puis une question que je me pose, c'est est-ce que la CAQ et l'expérience de la troisième voie aussi va avoir contribué à ça? Parce qu'on ne l'avait jamais essayé, entre guillemets.
Hey, quelle bonne analyse.
Puis j'ai l'impression qu'il fallait le faire aussi. Puis
ouais,
que les gens se font leur idée maintenant. Se disent, OK, le fédéralisme, on trouve ça ne marche pas très bien. La troisième voie a ses limites. Tu sais, il y a des gens qui sont très critiques de la solution de se séparer et devenir un pays comme tel, mais en fait, on se rend compte que toutes ses forces et ses faiblesses, dans le sens qu'il n'y a pas une solution facile ou parfaite à travers tout ça, mais je suis contente qu'on ait pu utiliser, en fait, cette troisième voie-là, puis voir qu'est-ce que ça donne.
C'est drôle ce que tu dis là, parce que ça fait partie de ma piste de réflexion aussi, de dire, écoute, au crime, on a eu le Parti libéral du Québec au pouvoir, main dans main avec le Canada, puis on s'est quand même fait passer des lois qui font pas notre affaire. Là, on avait cette troisième voie-là, nationaliste, autonome, qui allait aller chercher des gains.
On essaie d'aller chercher des gains.
On n'a pas eu de gains.
Ben, il y en a eu quand même quelques-uns, mais rien de magique. Là,
c'est ça, exactement. Donc, puis vois-tu Félix qui nous pose une super bonne question. Hey, il y a un parti qui va mettre en place un système qui pourrait nuire à ses pourcentages de vote. Est-ce logique? Ben non. Mais c'est justement pourquoi j'apprécie le courage du PQ. C'est qu'ils font pas d'électoralisme. Ils disent, hey, nous autres, c'est ça, on s'en va par là. Puis si vous nous élisez, il va en avoir un référendum.
Puis de toute façon, à un moment donné, à force de faire des contorsions pour plaire à trop de clientèle en même temps, tu finis par te blesser, là, puis te briser le dos parce que tu peux pas plaire à tout le monde. T'sais, à un moment donné, c'est mieux d'avoir un discours qui est clair, qui est cohérent, sinon tu finis par te faire pogner.
Ben, je pense que justement... Chez PSPP, justement, c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de personnes. On a eu un parti qui est tellement électoraliste puis qui a tellement pris ses décisions juste par rapport à des sondages, par rapport à ce que la population demandait pour remonter dans les sondages, pour regagner l'appui de la population, que là, de voir un parti au contraire qui dit « on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre ça, qui sont contre un référendum, mais nous, on tient notre proposition, même si ça peut nous faire mal dans les sondages, ça fait du bien
c'est
voir
comme
un parti comme ça. »
C'est comme un contraste qui ressort, effectivement. Puis je pense que ça vient aussi contribuer à ce que Paul Saint-Pierre Plamondon profite de la chute de la CAQ, puis il se positionne comme étant différent, puis ça fait un peu rafraîchissant peut-être aux yeux des gens.
Hey, là, on fait quoi? Vous savez, j'ai dit, je file tannant, puis je sors plein d'extrêmes, mais là, on fait quoi? Audrey Pinchot prend le micro. Prends le micro, Audrey Pinchot, qui est en nombre. Salut, Audrey Pinchot.
Comment
ça va? Toi, là, Audrey Pinchot, là, t'en penses quoi de Paul Saint-Pierre Plamondon puis du référendum?
Tabarnouche. Hey, là, il faut juste que je vous dise en partant que je vous écoutais pas pantoute.
Okay? Ben là, on dit qu'on est content. Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'assume dans le fait qu'il va faire un référendum, même si c'est pas populaire. T'en penses quoi d'un politicien comme ça?
Ben, d'un politicien qui s'assume en partant, moi, pour moi, c'est positif. Je vais être bien honnête. Là. Que tu sois pour ou contre un référendum, pour ou contre qu'on devienne indépendant, qu'on devienne un pays. M'entorche un peu, moi, quelqu'un qui s'assume et qui est cohérent dans sa façon d'amener les choses, moi, je suis toute là, là.
Tu vois, ça fait... c'est pour ça qu'il est populaire.
Oui, exactement.
Même s'il parle du référendum. Ça, tu as un point, par exemple. C'est vraiment la raison pour laquelle il est, même auprès des gens qui sont soit pas décidés par rapport à leurs pensées sur cette question-là ou qui en ont rien à faire. Moi, j'ai le sentiment que c'est le genre de politicien qui manque tout court à ce qu'on offre en ce moment. Là.
Ben oui, parce que, tu sais, le fameux camion avance-recule de la CAQ, on n'est plus capable. Puis là, on regarde à côté, puis on voit Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit « Vous savez quoi? Moi, je m'en vais par là. Puis checkez-moi bien, c'est là que je m'en vais. » Ouais. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut d'un leader, exactement.
Puis la communication politique la plus efficace, c'est toujours la simplicité. Puis c'est vrai que la position sur la question nationale de la CAQ, c'est plus compliqué que oui ou non.
Bon, là, je viens de lancer.
Hey, vas-y. Excuse-moi.
Mais non, vas-y, go, pars.
Parce que là, je me disais...
Hey, pas moyen que j'ai ouvert ton micro, là.
Non, mais au-delà de Paul Saint-Pierre, Plamondon...
OK, elle parle trop, non, c'est pas vrai.
Le fait de juste prendre des décisions, mettons qu'on ramène ça au municipal.
Ouais.
Moi, n'importe qui me dirait... Voici le plan, voici où je m'en vais, puis je décroche pas de ça, je déroge pas de ça. Je pense qu'en n'étant pas d'accord avec 50 % peut-être des propositions, j'aurais déjà plus envie de voter pour cette personne-là.
Ça suscite la confiance.
Ben exactement. Ouais. Non, mais c'est littéralement c'est ça, Antonine, pour vrai. Tu te sens encadré, tu as l'impression que bon, on n'est pas d'accord, ces décisions font chier, mais au moins...
On fait
quelque chose. Il y a une vision, il y a quelque chose qui est entendu.
Oui, tu as entièrement raison.
Puis, notre affaire, c'est que la carte du référendum pour les adversaires du PQ, c'était ah, on le sait, dans le fond, on voulait juste faire un référendum. Écoute, le PQ nous l'a tellement dit cette année que cette carte-là, elle n'existe plus. C'est, vous voulez faire un référendum? Ben oui.
Oui, on veut le faire, puis on va le faire, exactement. Bon, après, les fleurs, des fois, viennent le pot. Je te fais entendre, Antonine, un extrait que. C'est quelque chose qui m'énerve, par exemple, de PSPP.
Regardez la déclaration de Simon-Jolin Barrette sur les propositions en laïcité vendredi. Il a dit que je m'attaquais à des enfants. Ça vient du ministre de la Justice. vis-à-vis l'un des chefs d'opposition qui fait une proposition de politique publique. C'est ça, être en désespoir de cause. Puis, je demande juste à la CAQ d'être relativement prudente avant de tirer dans toutes les directions, de se faire des ennemis partout dans le but d'essayer quelque chose là, pour leur sondage.
Peut-être que c'est en désespoir de cause, mais en même temps, assume aussi tes politiques laïcité, tes politiques publiques.
Ben, je le trouve sensible un peu des fois. Ça, c'est, ouais, son, c'est peut-être ça, hein? Sa petite faiblesse. Là. Il réagit toujours au quart de tour, puis c'est comme si, tu sais, il était bien fort pour dire « Ah, oh, le wokisme, c'est ça », parce que là, on peut pas accuser Simon-Jolin Barrette d'être un woke, là, en passant, là. De dire on rend le débat très personnel, très acrimonieux, on exagère des choses, on dit pas la vérité dans l'argumentaire. C'est vrai que j'ai trouvé que la réaction de Simon-Jolin Barrette face à cette proposition de interdire les signes religieux chez les enfants. J'ai trouvé que c'était sorti un peu de nulle part puis que ça répondait pas à un enjeu qu'on nous avait bien expliqué. Là. C'était comme, ouf, ça sortait comme d'une boîte à surprise. Mais de dire qu'on s'attaque aux enfants, c'est vrai qu'on n'est pas dans le débat qui est très serein, on va dire ça comme ça. Mais quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit attention de ne pas se faire des ennemis partout, je comme, vous êtes déjà des adversaires politiques. Là. C'est dans l'ordre des choses, dans le fond.
Ouais, puis tu sais, moi, quand je joue une game de hockey puis je joue contre mon adversaire, je joue contre mon adversaire. Puis s'il faut que je le plaque un peu pour y ramasser la rondelle, ben je vais le faire.
Ben, ça, tu ne seras pas fâché d'être plaqué, surtout ben si non. Tu l'as plaqué la veille. Tu sais, à un moment donné.
C'est
là,
comme ça.
Mais c'était. Le PQ, c'était un peu ça durant la campagne d'Arthabasca également. C'était une campagne sale. C'était une campagne sale dans les deux côtés. Mais chaque fois qu'on les avait en entrevue, eux autres, ils disaient « Ah non, mais Éric Duhem nous critique. Nous autres, on se concentre sur proposer nos idées. » Mais en réalité, ils faisaient une campagne sale également.
En effet. Je termine avec la souveraineté. On fera journée vérité-réconciliation avec Catherine Champagne-Jourdain parce que je veux pas manquer son appel. Mais je veux juste, j'aime ça quand vous participez par texto. Pierre-Luc qui nous écrit « Le Québec a commencé à prendre du retard sur les autres causes, sur les autres, à cause des années perdues à s'obstiner sur la souveraineté. J'ai peur qu'on retombe dans les années Charrette. » T'en penses quoi?
Mais c'est un bon point.
C'est un bon point.
Honnêtement, il y a pas mal de Québécois en 2018. C'était ça aussi le pari. Ça fait des années que c'est les libéraux qui sont au pouvoir. On est un peu frustrés comme citoyens face à ben, par exemple, des politiques sur la langue française, l'immigration, la laïcité qui sont très, très molles. Mais en même temps, on est tanné d'être dans ce débat toujours oui-non qui a fait en sorte aussi de porter au pouvoir souvent les libéraux. Oui. Parce que la carte du référendum a fonctionné là, pendant très, très longtemps. Oui. Donc, pendant quelques années, c'était ça un peu le compromis caquiste. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de péquistes qui ont voté et qui ont travaillé même à la CAQ se disant « Mais on va faire avancer certains dossiers. Oui. » Puis le discours de François Legault, c'était aussi « Avançons sur l'économie. Arrêtons de nous ostiner sur le référendum. Améliorons l'économie du Québec. » Bon, là, après 7 ans,
ben, je vous laisse juger. Malheureusement, après 7 ans, c'est ça.
Je vous laisse juger, mais c'était ça l'idée au départ.
C'est bien. C'est bien que tu laisses juger les gens. J'adore Antonine.
Ils sont capables.
Oui, c'est ça, ils sont capables. Tu parles à l'intelligence des gens. C'est le caucus Iaccarini. On vit ça du lundi au jeudi, de midi à 12h30 dans l'émission. On en jase. On fait une courte pause, Antonine, pour les 3 prochaines semaines. Reste avec nous une demi-heure additionnelle. On est très heureux de ça. Et ce sera la ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Catherine Champagne-Jourdain, qui sera en entrevue avec nous. On va parler notamment de la journée de la réconciliation, puisque c'est la première femme autochtone qui a été nommée au Conseil des ministres. Alors, restez des nôtres sur Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase. Je vous parle de pièces auto-économiques. Pour la mise au point de votre véhicule avant l'hiver, visitez absolument Pièces auto-économiques. C'est simple, c'est leader au Québec pour les pièces d'auto et accessoires. Chez Pièces auto-économiques, nous avons tout pour l'entretien de votre véhicule avec plus de 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries et d'alternateurs. Hey, je passais devant leur nouveau bureau hier justement, puis je me suis dit, d'après moi, ça va être là que je vais faire mon changement de pneus. D'après moi, ça va être là que je vais aller m'acheter mes nouveaux pneus parce que, que mes pneus sont à la fesse et qu'il faut que je change ça. On a maintenant 9 magasins partout au Québec et un site transactionnel. Et jusqu'au 31 octobre, économisez gros chez Pièces d'auto économique. Obtenez 10 % de rabais sur les disques de frein de première qualité Brake Max à forte teneur en carbone pour un freinage plus en douceur. Mon vieux caravane a besoin justement de changer les freins arrière. Hey, ça coûte cher un caravane. Profitez de 15 % de rabais sur les plaquettes de frein Bosch et 15 % sur les essuie-glaces Bosch Clear Advantage. N'attendez pas la dernière minute pour la mise au point de votre véhicule et les rabais, c'est maintenant. Pièces d'auto économiques, c'est des grandes marques, des pièces neuves, garanties et les meilleurs prix. Commandez en ligne au pièceséconomique.com ou en succursale dans 9 magasins partout au Québec.
Itinérant.
Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Exactement, 12h35, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, l'émission d'En jase avec Jeff Fortin, Mathias Turcotte et Antonine Iaccarini. Pour nous joindre, vous le savez, vous l'avez fait en grand nombre avec notre dernière discussion sur la rentrée parlementaire, 418-971-1021. Vous pouvez également nous suivre via twitch.tv, /BLVD, /FM. On est disponible sur l'application BLVD 102.1 et la web radio BLVD FM. Avant d'aller rejoindre la ministre de la Famille et responsable de la région de la Côte-Nord, Catherine Champagne-Jourdain. Mathias, deux petites manchettes, qu'est-ce qu'on a à retenir?
Oui, j'ai pas le choix de vous reparler de l'opération policière massive qu'il y a eu partout au Québec. On parle de 200 policiers qui ont été déployés partout dans la province pour 13 arrestations au total des femmes et des hommes âgés de 18 à 51 ans. L'opération qui était menée, qui était orchestrée par le SPVQ. Donc, sur les 200 policiers, on avait 100 policiers du SPVQ. On avait également les villes de Longueuil, Laval et la province de l'Ontario qui étaient impliquées dans les différentes arrestations. Ces arrestations-là sont liées au meurtre de Jennifer Fortin, meurtre qui a eu lieu en décembre 2024. C'était un meurtre qui avait été effectué par erreur. On visait plutôt son fils, Jeffrey Morin, un homme lié à la Blood Family Mafia. Donc, énorme opération policière. 6 personnes comparaîtront cet après-midi au Palais de justice de Québec. Je vous parle également de Claude Villeneuve qui a annoncé ce matin qu'il allait s'attaquer au corridor Vivacité. Donc, il est cyclable à travers la ville de Québec. Claude Villeneuve qui indique que s'il est élu maire, justement, il n'hésitera pas à analyser les différents corridors et en retirer en cas de besoin. On cible surtout pour l'instant les aménagements sur Père-Lelièvre, Marie de l'Incarnation, Boulevard Saint-Anne et Chemin de la Canardière. Du côté de Villeneuve, on dit qu'on n'est pas nécessairement convaincu des données présentées par l'administration Marchand.
Antonine, pour introduire notre prochaine invitée, parle-moi un peu de la journée de la réconciliation.
Oui, journée nationale vérité et réconciliation. Si vous vous demandez peut-être aujourd'hui pourquoi il y a des gens qui portent du orange ou qui ont la petite épinglette avec un petit chandail orange attaché à leur chemisier ou à leur veston, c'est que c'est une journée aujourd'hui qui vise à commémorer et non célébrer. Hein, parce que j'entends des gens qui célèbrent la journée. Ce qu'on commémore, c'est l'histoire tragique et les séquelles des pensionnats autochtones à travers le pays. C'est une page sombre de notre histoire. Hein. C'est pas très glorieux.
Vraiment.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les pensionnats? Énormément d'impact sur des tonnes d'enfants et de parents autochtones à travers le pays. Et c'était une des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation d'avoir une journée de commémoration. Donc, c'est ce qu'on commémore aujourd'hui.
On est très content de vivre cette journée-là et de reconnaître justement les Premières Nations. Et pour en parler avec nous, on a Catherine Champagne-Jourdain, ministre de la Famille, ministre responsable de la Côte-Nord, députée de Duplessis, mais surtout la première ministre qui provient des Premières Nations à être nommée au Conseil des ministres. Madame Champagne-Jourdain, merci pour votre disponibilité aujourd'hui.
Coué-coué, bonjour à vous tous, à tous vos auditeurs aussi.
Madame Jourdain, en tant que membre justement des Premières Nations, comment on se sent cette journée de la réconciliation?
Mais c'est toujours une journée qui est chargée en émotions. Chargée parce qu'on se souvient d'un passage de notre histoire qui est moins reluisant. On a tous, en tant qu'Autochtones, des membres de notre famille qui ont fréquenté les pensionnats. Pour ma part, c'est mon père qui a fréquenté les pensionnats. Et on a le devoir de se rappeler que on ne veut plus que les choses se passent comme ça. Et sur une note plus positive, c'est aussi une journée pour se rapprocher, pour aller à la rencontre de l'autre. Et il y a plusieurs activités qui sont organisées aux quatre coins du Québec. J'invite les gens à participer. Ils sont les bienvenus. On voit beaucoup de marches dans les communautés, mais ce ne sont pas des marches ou des activités seulement destinées aux Autochtones. La réconciliation, le rapprochement, ça se fait ensemble.
Vous parliez d'être sur une note positive. J'ai envie de continuer un peu dans cette voie-là. On constate, moi, je trouve que ce qui a beaucoup avancé dans les dernières années, c'est la présence maintenant de modèles autochtones tellement positifs, inspirants dans toutes sortes de sphères de notre société. Vous êtes la première femme autochtone ministre au Québec. Est-ce qu'on vous en parle? Quand vous allez sur le terrain, quand vous parlez avec des jeunes autochtones, pensez-vous que ça a un impact, ce que vous représentez? Le sentez-vous, cet impact-là autour de vous?
Absolument, absolument. C'est très important qu'on soit représenté à tous les niveaux, qu'on sorte aussi de nos communautés. Plusieurs gens œuvrent dans nos communautés, que ce soit en culture, en éducation, en santé, en politique, en administration. Mais c'est important aussi de sortir, de s'impliquer à l'extérieur. On le fait, on le voit à différents niveaux, que ce soit au niveau, à mon niveau en politique provinciale, on le voit aussi au fédéral. Alors, c'est très important de le faire parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir avoir une chance ou la chance de pouvoir s'exprimer, d'apporter aussi ce qu'on a apporté comme autochtone, parce qu'on a des choses à apporter. C'est ça que les jeunes aussi réalisent quand ils voient des modèles briser des plafonds de verre, aller là où jusqu'auparavant il n'y avait pas d'Autochtones qui étaient allés. Moi, ça m'est arrivé souvent d'être la première dans tel milieu, dans tel conseil d'administration, à tel niveau. Je ne cherche pas les premières, mais ça donne. Alors, c'est dire que il y a de la place encore. Les jeunes, ça leur permet de croire, de se projeter aussi dans le futur. Et je dois vous dire que nos aînés, je reçois aussi beaucoup de félicitations et de témoignages de fierté de la part de nos aînés qui ont connu des moments beaucoup plus difficiles, l'instauration du système de réserve, des pensionnats, et qui nous voient maintenant devenir des leaders et qui sont profondément touchés, qui ont confiance en nous pour changer les choses.
Et vous, quand vous étiez jeune, c'était qui vos modèles?
Moi, j'ai... écoutez, premièrement, ma famille proche, vous savez, moi, j'ai un père qui a fréquenté les pensionnats, qui a choisi, lui, que ça s'arrêtait à lui et qu'il ne transmettait pas de trauma. Alors, ça a été ma grande chance d'être encouragée par un père qui me disait que je pouvais faire ce que je voulais tant que j'y mettais les efforts et le travail nécessaires, que je pouvais aller où est-ce que je voulais, qui peu importe quels étaient mes buts, que tout était possible pour moi. Ma grand-mère aussi, Inou, est un personnage marquant dans ma vie. Elle est née en 1906, elle est décédée à 102 ans. Elle avait eu la chance d'avoir une éducation, de pouvoir aussi lire la musique. Elle a été la première femme à traduire les lettres, à faire de la correspondance pour la communauté de Ouachat-Maliotenam quand il y a eu création de la communauté. Elle faisait la correspondance avec le gouvernement fédéral à ce moment-là. Et elle a toujours prôné l'éducation comme un moyen d'avancer pour les communautés autochtones et d'être capable de se définir dans le futur.
Madame Champagne-Jourdain, on félicite vraiment pour votre parcours très, très, très impressionnant. Pour rappel, on est en discussion avec Catherine Champagne-Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, première députée de nationalité autochtone à accéder au Conseil des ministres. Dans votre rôle au ministère de la Famille, quelles sont vos priorités pour la prochaine année? Et est-ce que dans vos priorités, là, il y a les demandes des réfugiés là, de pouvoir accéder justement à nos garderies, là, c'est-à-dire à nos CPE?
Bien, écoutez, c'est sûr que dans les derniers jours, on a pris connaissance de tous les dossiers. J'ai commencé aussi à rencontrer tous les acteurs clés de mon réseau. C'est extrêmement important pour être connecté puis s'assurer qu'on continue de prendre les bonnes décisions. Il y aura certainement beaucoup de déplacements en région à prévoir dans les prochains jours parce que on a beaucoup livré dans les dernières années. C'est plus de 30 000 places qui ont été créées jusqu'à maintenant, 14 000 en voie de le devenir. Alors, il y a beaucoup d'inauguration de pelletées qui vont continuer à se faire, mais il y a aussi les dossiers qu'on doit travailler et pour continuer de travailler. Et vous l'avez bien dit, celui-là va nous occuper, celui-là des réfugiés, effectivement, des demandeurs d'asile. On va devoir adresser ça. Je me familiarise avec tout ça. Et moi, je veux certainement voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Je reviens aux régions parce que c'est extrêmement important. On a donné un grand coup dans le centre du Québec pour être capable de se sortir la tête de l'eau, comme je dis. Là, on revient à un retour là de places disponibles qu'on pourrait reprendre et revoir comment on peut soutenir d'autres régions où les besoins sont encore criants. Ça va faire partie de nos priorités. Et on a une transformation aussi qui s'en vient, un une transformation là au niveau là, de ma place 05. Donc, on va s'assurer que tout se passe très bien. Ça va occuper une partie de notre automne aussi.
Et, une transformation numérique, hein, justement. Faites bien attention, Mme Champagne-Jourdain, parce que les projets numériques au gouvernement, c'est pas toujours facile. On vous souhaite que ça se passe mieux que dans certains autres ministères ou organismes. Vous l'avez dit, vous avez inauguré beaucoup de places depuis les dernières années, mais il y a quand même encore beaucoup d'enfants qui attendent une place. On en a combien là, sur la liste d'attente pour avoir une place en service de garde?
Actuellement, on est à environ 30 000 enfants.
Donc, vous avez un gros défi, là, encore.
On a créé 30 000 places au cours des trois dernières années. Comme je le disais, il y en a encore 14 000 actuellement qui s'en viennent. On a aussi des projets de conversion de places aussi qui vont se faire. Alors, on va continuer de travailler pour répondre aux besoins. Il y avait beaucoup de rattrapage à faire. C'est ce que ma prédécesseure s'est affairée à faire, à livrer, et on veut être là pour soutenir les familles. Au niveau de la transformation, je vous dis de rester à l'affût au courant des prochaines semaines. Il y aura beaucoup de communication pour s'assurer que tout se passe bien. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit un succès. Alors, tout est mis en branle pour que ce le soit.
Bon, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'on comprenne bien, on parle de cette liste d'attente pour les services de garde là, qui va être transformée, qui va être rendue, selon les dires du gouvernement, plus efficace. Il y a des déficits importants en ce moment. On verra à la mise à jour économique, on en est à combien. Mais est-ce que, par exemple, on sait qu'il y a une vaste initiative pour couper dans les dépenses, un peu partout dans les ministères. Madame Duranceau est responsable d'aller chercher des sous un peu partout. Est-ce que vous pourriez, pour faire votre part là, dans ce vaste exercice, toucher aux tarifs de garderie? Hein? Les libéraux avaient modulé le tarif pour les places en garderie subventionnée. Est-ce que ça pourrait être une voie que vous empruntez aussi?
Bien, écoutez, comme je vous le disais, là, on est vraiment dans la prise de connaissance de tous les dossiers, ce qui va certainement guider nos actions dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est les priorités commises de l'avant, M. Legault, dont il va reparler cet après-midi. Vous savez, économie, portefeuille pour les Québécois. On veut retourner de l'argent dans le portefeuille des Québécois. L'efficacité aussi de l'État. L'efficacité, c'est bien que ce soit plus simple de faire affaire avec l'État. La sécurité, c'est un enjeu qui est important aussi. On veut que les gens se sentent en sécurité au Québec. On a l'habitude d'être en sécurité et on veut que ça demeure le cas. Et il y aura aussi toute la question d'identité québécoise qui va certainement guider nos actions.
Avec le recul et en terminant, Mme Champagne-Jourdain, est-ce qu'on aurait dû se concentrer sur les services de garde, les CPE, plutôt que de créer des places en maternelle 4 ans? Ça aurait été bien au niveau budgétaire et je crois qu'on aurait plus de places en garderie à ce moment-là.
Bien, vous savez, je pense qu'on a beaucoup livré. Le but, c'était de répondre à la demande. Au courant des trois derniers gouvernements qui ont été là avant nous ont pratiquement pas créé de place.
Oui, mais en tout respect, nous, il reste quand même 30 000 personnes sur la liste d'attente à l'heure actuelle. Donc, quand vous dites on a beaucoup livré, j'ai certains doutes.
Vous savez, c'est en créant des places qu'on répond aux besoins. On en a converti aussi. C'est environ 44 000 places là, qu'on aura livrées, une fois les 14 000 places livrées. Et en parallèle de ça, on va continuer de voir à répondre. Bien, on va continuer de répondre aux besoins des milliers, des différents milieux. Il y a des efforts supplémentaires à faire dans certaines régions pour s'assurer que ces régions-là demeurent attractives, s'assurer de la vitalité de ces régions-là. C'est à ça qu'on va s'affairer. Le travail continue. On avait un immense rattrapage à faire. Le grand chantier a été lancé. On livre et on va continuer de le faire. C'est comme ça qu'on va répondre aux besoins parce qu'on veut s'assurer que les enfants, chaque enfant ait une place.
Catherine Champagne-Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de Côte-Nord et députée de Duplessis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce midi.
Merci beaucoup pour votre invitation, Yamé, et j'invite tout le monde là à pouvoir participer à des activités de rapprochement aujourd'hui, mais aussi au courant des prochains jours.
Merci beaucoup. Passez une agréable journée et une bonne rentrée parlementaire.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. C'était Catherine Champagne-Jourdain, ministre de la Famille, pour la Coalition Avenir Québec. De la CAQ, on saute immédiatement au Parti libéral du Québec et on va rejoindre non plus le chef par intérim, mais le porte-parole en santé et porte-parole de la capitale nationale. Vous reconnaissez son rire, c'est M. Marc Tanguay. M. Tanguay, comment allez-vous?
Salut Jeff, ça va bien? Heureux de l'invitation.
Ben oui, hey, ça m'a fait quoi, là? Moi, je m'attendais à parler à quelqu'un d'autre, puis là, on m'a dit, hey, Marc est disponible. J'ai dit, oh, ben, je vais reparler avec M. Tanguay. Ben oui, exactement.
Tu vas le prendre pareil, même si c'est plus chef intérimaire.
Ouais, c'est ça, exactement. Hey, parlant de ça, vous avez un nouveau chef qui est Pablo Rodriguez,
oui.
Une nouvelle leader parlementaire, Marois Risky. Comment Pablo Rodriguez va faire pour être aussi bon que Marois Risky quand il va rentrer à l'Assemblée nationale?
Ah, ben écoutez, c'est un travail d'équipe. Écoute, Jeff, c'est un travail d'équipe. Pablo sera là à l'Assemblée nationale sur les points de presse à toutes les semaines. Il fera peut-être pas toutes, mais il va être présent sur les points de presse. Puis après ça, ben on dit de nous, le Parti libéral du Québec, reconnecter avec les francophones. Ben il va être sur le terrain dans toutes les régions du Québec, parler d'économie, de services qu'on n'a pas, puis commencer à bâtir notre offre politique. On est à la veille de l'année électorale. On voit la CAQ, là, c'est fini la CAQ. Moi, là, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a le goût d'ordonner un autre mandat, François Legault, là. C'est fini la CAQ. Maintenant...
Vous croyez pas à l'histoire de Rocky?
Non, ben Rocky, oui, mais dans le bout où Rocky mange une volée, il ne s'enlève pas, là. J'ai pas d'enjeu avec ça, mais il s'enlève...
Donc, Rocky contre Clubber Lang, là, au début de Rocky 3, là, c'est là qu'on en est?
Ouais, c'est ça, puis okay. Le film va arrêter sec, là, tout simplement.
Apollo ne viendra pas le sauver?
Non, Apollo Creed, malheureusement. Non, puis en passant, c'était un film, hein, c'était une vue, hein, c'était pas de la vraie vie. Alors, ça arrivera pas avec François Legault. Maintenant, quel changement pour le Québec? Alors, ce sera entre nous, libéraux, l'économie, les services, et le Parti québécois, qui réitère son désir d'y aller avec un référendum. Alors, comment ça pourrait nous aider à avoir de meilleurs services? Ça va faire partie des débats.
Puis ça va être quoi les priorités du Parti libéral pour cette session parlementaire? J'imagine que vous allez me parler d'économie, évidemment.
Oui.
C'est un créneau que vous voulez récupérer et que la CAQ vous donne quelques occasions de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres priorités qui vont être mises de l'avant?
Bien, vous avez raison, Antonine. L'économie, si on ne va pas changer ça, l'économie, c'est le socle qui nous permet de créer la richesse, créer la valeur pour offrir les services. Si vous n'avez pas une économie forte, vous avez des déficits sur déficits, une décote du Québec, et vous n'avez pas une capacité d'offrir les services. L'Agence de recouvrement Santé Québec, son premier mandat depuis le 1er décembre dernier, c'était d'aller récupérer 1,5 milliard de dollars. Puis comme nouveau porte-parole en santé, on peut en parler si vous voulez, il n'y a pas juste HMR qui est en décrépitude, il y a l'hôpital de Sainte-Croix à Drummondville, les services qui ne sont pas offerts. Savez-vous que dans la capitale nationale, il y a 119 000 Québécoises et Québécois qui sont en attente d'une consultation pour un médecin spécialiste, dont 80 000 hors délai, juste dans la capitale nationale? Tantôt, la ministre Catherine Champagne-Jourdain parlait des services de garde. À Québec, c'est 3863 familles qui attendent toujours une place en service de garde. Ça, c'est l'économie, puis c'est les services. Ça va être nos priorités.
Avant de revenir sur la santé, M. Tanguay, je veux absolument vous parler des élections municipales dans la capitale nationale, dans notre belle ville de Québec, parce que il y a un ancien porte-couleur du PLQ qui se présente,
ben oui.
Sam Hamad.
Ben
vous
ben
la trouvez comment, la campagne électorale de Sam Hamad?
Écoute, Jeff, je vais pas commenter la politique municipale.
Ouais,
j'en ai déjà plein mes culottes avec la politique provinciale. Je veux pas commencer à faire le
gérant
d'escadre, mais je suis ça d'un œil très, très attentif, bien évidemment. Là, je vois tout ce qui se passe.
Mais admettons, Sam Hamad, là, vous appelle, M. Tanguay, puis il dit, je mets des suppositions, là, il dit, j'ai vraiment des problèmes avec mes communications. Marc, y aurait-tu une coupe d'employés du Parti libéral qui pourrait m'aider? On est en dessus la main ou quelques conseils? On fait quoi avec Sam Hamad?
Non, ça arrivera pas. Je te rassure, Jeff, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. On va pas se mêler d'élections municipales. Que je suis encore une fois, parce que c'est important pour notre capitale nationale, là, qui en a pas eu sa part du butin, là. Capitale nationale qui était au bas de la liste en 2023 sur 14 grandes villes canadiennes. Québec était la dernière en décroissance économique en 2023. C'est important ce qui se passe à la mairie. Alors, j'invite les gens à, justement, regarder les programmes, à s'intéresser aux candidats, d'aller voter. Parce que c'est important, notre capitale nationale là, a reculé. On pourrait parler des investissements qui n'ont pas été faits, en plus des services. C'est important, puis on suit ça d'un œil évidemment très, très attentif.
Puis qu'est-ce qu'un gouvernement libéral ferait pour la capitale nationale? On pourrait prendre dossier par dossier, mais on dit qu'il n'y a rien qui avance, ça va pas bien.
Ouais.
Bon, mais alors qu'est-ce que vous allez faire pour Québec?
Parfait. Le tramway, on a perdu 7 ans avec François Legault. Tergiversation. Le tramway, là, il avait été annoncé et budgété en 2018 à l'époque.
Oui, mais là, ils sont en train de le faire, là. Fait que là, ça, c'est pas mal réglé, là.
Le tramway aurait été livré en 2026, selon l'échéancier. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Les priorités de la ville, c'est l'itinérance, c'est le logement, entre autres. Alors, le tramway, la Chambre de commerce l'a dit de Québec, de commerce et d'industriel de Québec, a dit le tramway, ça aurait été des milliers de logements de plus s'il avait déjà été planifié et s'il avait été livré. Alors, on n'a pas eu cet investissement-là. Évidemment, au niveau de l'itinérance, c'est un dossier important. Les autorités de Québec demandent plus de ressources. On n'a pas eu ça. Le logement également, c'est important. Puis livrer des grands projets. Je veux dire, on est loin des grands projets où le Parti libéral du Québec avait su livrer. Puis ils sont même pas capables de livrer la phase 4 de Samuel de Champlain. Voyons donc.
Puis le troisième lien, je suis rendue un petit peu mélangée sur la position des libéraux là-dessus. Là. Est-ce que vous êtes pour, contre, si vous êtes élu l'année prochaine, est-ce que ça va se faire? Pouvez-vous nous préciser un peu là, votre position?
Troisième lien, c'est le rapport de la CDPQ Infra. C'est le tramway et un lien nord-sud tramway. C'est du transport collectif. C'est ça la position du Parti libéral du Québec qui n'a pas changé. Évidemment pas. Faut le faire. Mais quand on parle de l'enjeu de fluidité à Québec, il est important de voir des travaux, que les travaux aillent encore plus loin à la tête des ponts. Que le pont à étagement dans le Bourgneuf, là, qui a été remis aux calendes grecques, c'est épouvantable. On parle d'une affaire d'à peu près 25 millions où il y a un engorgement. Alors, le fameux troisième lien, là, qui se fera jamais sous la CAQ, même ceux qui sont pour le troisième lien, ils croient même plus François Legault et Geneviève Guilbeault avec ses gros cartables. Alors, c'est ça la position du Parti libéral du Québec, avoir un tramway qui soit efficace, désengorger nos artères par des travaux nécessaires routiers. Et ça a toujours été la vision. Puis nous, on va le faire. Mais pour ça, faut savoir compter, faut pas gaspiller, faut avoir l'argent. Je parlerai pas de Nordvolt, ça clique. Et dossier santé numérique, j'ouvre une petite parenthèse. Regardez ça. Dossier santé numérique, c'est le prochain fiasco, ça, de la CAQ. Il avait annoncé ça pour 1,5 milliard. Il y a une petite nouvelle qui est sortie il y a 10 jours, là. Ils sont rendus à 3 milliards. C'est 3, ça clique, ça. Alors, on va continuer de l'étalonner. Puis on va préparer l'avenir, puis la lutte qu'on mènera contre le Parti québécois.
Bien, justement, j'ai deux questions pour vous en terminant, M. Tanguay. Puis si je commence avec la santé, comment qu'on règle ça avec les médecins? Êtes-vous pour des indicateurs de performance? Êtes-vous pour un projet de loi?
On est pour des indicateurs qui soient en collaboration avec les médecins. Là, François Legault, son piètre bilan des 7 dernières années, là, il se dit, il me reste 7 mois pour virer ça de bord. Il y a un rapport d'experts qu'il a lui-même commandé, qui a été rendu public le 31 mars dernier, qui dit oui, des indicateurs, mais il faut travailler en collaboration, pas juste avec les médecins.
Mais ça serait quoi votre cible d'indicateurs? Il faut quand même mettre une cible au début aux médecins. Ça serait quoi, 25 %, 20 %, 15
%? Non, on n'en est pas là. Ça, c'est le faux débat, la fausse étoile que va aller chercher Christian Dubé dans son mauvais bulletin. Il faut s'asseoir avec les médecins et tous les intervenants. Les services de première ligne, ça se bâtit avec des indicateurs discutés. Même les experts disent que c'est la mauvaise approche. C'est quoi ça, Jeff? 15 % 25 % c'est du volume. Faites du volume, voyez-le en 10 minutes, puis on va vous récompenser. Puis en passant, là, j'ouvre une parenthèse, la lourdeur administrative pour gérer ça, je referme la parenthèse. Alors, ça prend de la qualité, ça prend de l'interdisciplinarité, les infirmières spécialisées, les travailleurs sociaux et ainsi de suite. C'est ça l'approche. Là, François Legault, brouillon, minuit moins 5, part en guerre avec les médecins. Allez dire ça aux 567 personnes qui sont sur la liste d'attente en oncologie dans la capitale nationale. Je vous dis que c'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin d'un gouvernement qui réfléchit, intelligent. Mais c'est pas ça qu'on a. Alors, c'est pas surprenant qu'ils n'ont pas de résultats.
Mais en même temps, on parle de résultats. Il n'y a personne, il n'y a pas un gouvernement qui a réussi à faire en sorte que les Québécois qui veulent être pris en charge par un médecin de famille soient pris en charge par un médecin de famille. Là, je comprends, vous allez me dire que la liste a augmenté, que la CAQ, c'était bien épouvantable et tout ça. Mais c'est un défi, là, la prise en charge par les médecins. C'est quoi la solution d'un gouvernement libéral pour que les médecins, finalement, prennent en charge les Québécois et qu'on réduise cette liste d'attente là, qui est extrêmement longue et qui est un peu gênant pour tout le monde? Là.
Exact. S'assurer que les médecins aient les outils. Vous savez que le gouvernement passe des contrats dans les GMS, ce qu'on appelait nous autres à l'époque les super cliniques. Puis avec Avec Gaétan Barrette, on avait été capable, tout n'a pas été parfait, mais on avait été capable de diminuer la liste des Québécois qui étaient en attente d'être pris en charge. Savez-vous que sous ce gouvernement-là, il respecte même pas ses obligations de fournir les sommes nécessaires pour les GMF pour qu'ils aient des infirmières praticiennes spécialisées, qu'ils aient d'autres ressources pour désengorger justement l'horaire des médecins. Et quand le gouvernement nie la paperasse, les omnipraticiens, savez-vous qu'ils gaspillent 4 semaines de leur année en pure paperasse? Alors, faut avoir cette efficacité-là. Puis, vous parlez du bilan du Parti libéral du Québec en 2014-2018, ça aura toujours bien été le seul gouvernement qui, durant 4 ans, a vu diminuer les délais d'attente dans les urgences. Et ça, il y avait une organisation qui était en route, puis on donnait les moyens aux médecins. Je vais vous référer, puis je vais terminer là-dessus, je ne veux pas m'étendre trop longtemps, mais ce médecin spécialiste en Outaouais qui n'a pas le bloc opératoire, puis qui est obligé de faire 600 kilomètres pour aller au Saguenay pour opérer, puis qui n'est pas capable de livrer, ça, c'est de la faute du gouvernement. Il ne met pas dans son projet de loi 106, puis vous avez vu ce qui est sorti la semaine passée, on a demandé au ministère, dans une rencontre privée avec les omnipraticiens, allez-vous mettre les ressources nécessaires pour qu'on atteigne nos engagements de bord? Ils ont dit textuellement, pas plus qu'avant. Ben c'est ça, pas plus qu'avant, on est tanné dehors la CAQ.
Marc Tanguay, porte-parole en santé pour la Capitale-Nationale, député de La Fontaine pour le Parti libéral du Québec. Merci beaucoup, M. Tanguay, pour votre temps ce midi. Au plaisir de se reparler et bonne rentrée parlementaire.
Merci, à très bientôt.
Merci, au revoir. Je peux pas croire que les libéraux vont aller à la guerre avec Pablo Rodriguez.
Ben écoute,
quand t'as
dit...
Marc Tanguay, t'as Monsef, t'as Marois Risky.
Puis Marc Tanguay dit avec raison, c'est un travail d'équipe. Mais ben tu sais, oui. Au débat des chefs, là, Marois Risky, puis Marc Tanguay, puis Monsef Deragy seront pas en arrière de Pablo Rodriguez.
Non, c'est ça, exactement. Puis je pense pas que Pablo Rodriguez va pouvoir rallier les régions où le vote francophone n'a pas du tout. Là.
Je donne la chance aux coureurs, mais c'est vrai,
ben, c'est vrai que...
que
je suis critique envers mon Pablo.
Ben c'est correct, mais c'est vrai que la pente est un petit peu plus raide.
Ouais, un petit peu plus raide.
Il y a du travail à faire.
Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Tu penses quoi de Catherine Champagne-Jourdain? Je trouve qu'on est dans on a livré, mais t'as bien beau dire ça, la population le voit pas.
Bien, en fait, ça a été catastrophique les dernières années, les services de garde, parce qu'on a eu cette pénurie de main-d'œuvre. Ouais. On avait des conditions de travail chez les éducatrices qui n'étaient pas particulièrement attractives.
Exactement.
Il y a eu la pandémie, ça a été extrêmement difficile. Après ça, on s'est rendu compte aussi que nos processus pour créer des places étaient beaucoup trop lourds. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites, mais le résultat encore aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a 30 000 familles qui attendent
ben,
une place
ça.
En service fait de garde.
Quand Catherine Champagne-Jourdain me dit « Oui, mais on a livré, M. Fortin, c'est ce que je lui ai dit. » J'ai dit « Oui, mais c'est parce qu'il en reste 30 000. »
Mais puis c'est vrai qu'ils en ont créé des places, mais les défis demeurent énormes. J'ai trouvé aussi que ben, ça demeure encore flou, là, parce qu'on a des choses très, très concrètes qui s'en viennent. Ouais. Il va y avoir des coupures dans les ministères. Moi, j'aimerais ça savoir si le ministère de la Famille va devoir couper.
En effet, parce que
ce qui risque d'arriver, c'est qu'on tombe dans une tarification qui est plus élevée aussi pour les parents, dans un contexte où le coût de la vie est très élevé.
Augmenté.
Est-ce que c'est quelque chose qui est évalué? Moi, ça, j'aurais aimé ça le savoir, mais évidemment, le temps que c'est pas annoncé, ils ne le diront pas. Je sais pas si on va parler de famille dans le discours d'ouverture cet après-midi. On parle moins de place en garderie dans les médias et tout ça depuis quelques temps.
Tu m'allumes sur quelque chose et ça serait tellement important qu'on en parle parce que c'est quoi un des sujets principaux lorsque, justement, on s'adresse à la population? C'est « Hey, qui va améliorer mon pouvoir d'achat? »
Exact.
Quand est-ce que je vais avoir des meilleurs services? Hey, je suis enceinte puis j'ai peur de pas avoir de place en garderie. On parle énormément de famille.
Là.
Et c'est très concret, c'est très service à la
c'est
population.
C'est le fun, là, penser de construire des barrages puis créer des filières puis tout ça. Mais
150 milliards dans Hydro-Québec, là, c'est le fun.
Tu trouves un médecin de famille, une place en garderie puis combien coûte ton compte d'hydro là, à la fin de la journée, c'est pas mal ça qui a le plus d'impact.
Hey, on est plate. Nous autres, on veut que les maires parlent de tuyaux puis que les politiciens parlent de place en garderie.
On est plate.
Je pense qu'on est connecté sur le monde. Ça doit être ça.
Ça doit être ça.
Merci Antonine Iaccarini, on se parle demain?
Oui, à demain.
Yes, merci d'extensionner le caucus Iaccarini avec des excellentes entrevues entre 12h30 et 13h. Nous, Mathias, on fait une courte pause et par la suite, on va rejoindre notre chroniqueur Rémi Villemure, animateur au 99.5 Montréal. Il veut entre autres revenir là, sur des propos de journalistes par rapport à l'immigration, par rapport à la laïcité, des propos qui vont trop loin selon lui. Donc, on va parler de ça au retour de la pause. Ça te convient, mon Mathias?
Yes, sir.
Excellent. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase. On en jase jusqu'à 14h. Oh, que j'aime ça animer ce show-là. J'espère que ça vous plaît également. 418-971-1021. Envoyez-le. Donnez-moi donc votre appréciation de ce show-là qui en est à son premier mois est déjà fini, qui en est à son deuxième mois. 418-971-1021. Je suis ouvert à vos commentaires, s'il vous plaît. J'en reçois régulièrement, puis j'essaie justement de m'adapter. Alors, merci beaucoup pour vos futurs commentaires. Il est présentement 13h10. Va suivre à l'émission, on va avoir Hugo Fournier, président et directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. On va parler du rapport de la coroner Nathalie Lefebvre, qui a formulé 9 recommandations sur l'intimidation, notamment à l'école, à la suite du décès d'une jeune fille de 12 ans. C'est un suicide qui s'était produit l'année dernière à pareille date. Donc, ça va être très intéressant. Mais avant tout ceci, on va rejoindre notre excellent chroniqueur, animateur au 99.5 Montréal, Rémi Villemeux. Rémi, comment vas-tu?
Ah, ça va très bien. Vous deux, les gars?
Ça va super bien. Rémi, priorité de la CAQ, on pourrait les renommer. C'est l'économie, c'est la sécurité, l'identité, l'efficacité. Tu y crois ça encore à la CAQ?
Non, je crois pas à la CAQ, là. Par contre, tu vois, moi, ce que je voulais qu'on fasse rapidement, là, parce que évidemment, dans moins d'une heure, on va avoir le discours de François Legault, puis on va être dans le concret alors que là, on est dans la théorie et dans la spéculation. Je voulais quand même juste pointer du doigt certaines priorités qui sont normalement celles qu'il va annoncer, que je trouve, j'aurais préféré ne pas l'entendre là-dessus. Je pense notamment à quand il parle d'économie puis qu'il nous dit « Ah, on va essayer de s'adapter à Donald Trump, on va essayer de renforcer les emplois qu'il fait perdre au Québec. » Écoute, on a vu là, qu'avec Mark Carney, qui a les moyens d'un premier ministre d'un pays, c'est pas possible de gérer ce qui ne se gère pas et ce qui ne s'anticipe pas.
Donc,
je dis pas que François Legault ne devrait pas avoir un mot là-dessus cet après-midi lors de son discours, mais ça ne sert à rien de s'engager à être capable de faire face à Donald Trump alors que personne ne peut savoir où il s'en va.
Je suis trop dur. Si j'ai lâché donc Donald Trump, occupez-vous donc de vos affaires en premier.
Ben, t'es pas trop dur, mais par contre, il te répondrait que c'est les affaires du Québec lorsqu'une entreprise doit slacker du monde parce qu'elle a perdu des contrats. Mais c'est vraiment un piège que de se dire, écoutez, d'ici un an, on va être capable de faire face à Donald Trump. Autre chose que je trouve assez imprudente de la part de la CAQ, même si je suis totalement d'accord avec eux, c'est la modernisation du régime syndical. Réalisez-vous, avec le Front commun des syndicats dans les derniers jours, que s'il va de l'avant avec ça, on va passer un printemps de manifestations monstres, il va y avoir des grèves monstres. Il n'y a aucun de ces scénarios-là qui peut être payant pour la CAQ. Là. Donc là, c'est à se demander si la CAQ préfère faire les bonnes choses pour passer sur le plan historique comme un gouvernement qui aura eu le courage de mettre en branle des chantiers en sachant très bien que ça n'allait pas les mener à la réélection, ou c'est un parti qui pense vraiment que ça peut être payant démocratiquement, électoralement, de faire ça. Moi, je pense que c'est un panier de crabes. Tu peux te battre contre la CSN, tu peux te battre contre la FTQ, tu peux te battre contre un autre syndicat. Tu ne peux pas te battre contre tout le monde. Tu ne peux pas te battre contre tout le monde alors qu'il y a une grève à Postes Canada, qu'il y a une grève à la STM. À Montréal, c'est pas prêt. On n'est pas prêt d'en sortir non plus. Donc ça aussi, c'est imprudent de la part de la CAQ d'un point de vue électoral. Autre chose, en matière de sécurité, on nous annonce que Yann Lafrenière va faire reculer le crime organisé. Ça, c'est pas payant électoralement. Le monde s'en fiche un peu. Honnêtement, les gens trouvent ça plate qu'il y ait un problème de sécurité avec les gangs de rue. Vous autres, à Québec, vous avez eu la guerre entre BFM.
Oui, exactement. Encore aujourd'hui, 13 arrestations.
Tu ne gagnes pas une élection comme ça. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des efforts, mais je dis juste que s'il faut économiser les mots dans un discours, parce que tu ne peux pas enterrer le tout, bien, passe à côté de ça, franchement. Ouais. Là,
je t'écoute, Rémi. Est-ce que c'est l'identité, finalement, son sujet principal sur lequel il doit frapper?
Ah, bien, écoute, on commence à se connaître, mon cher Jeff. Moi, je pense que la CAQ n'est pas dupe. Elle le sait pourquoi elle a gagné l'élection de 2018 et comment elle a gagné l'élection de 2022. À chaque fois, c'était en martelant les dossiers identitaires. Ouais. Donc, immigration, langue. Là, cette fois-ci, il est question d'une deuxième loi sur la laïcité, de réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval et d'une première constitution québécoise. C'est comme ça que la CAQ peut réussir à faire des gains, à consolider son pouvoir, parce qu'il y a encore beaucoup de Québécois qui doutent de la pertinence de tenir un référendum dans un premier mandat, qui sont nationalistes sans être souverainistes, qui sont prêts à retourner à la CAQ parce qu'ils sont frileux, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon demeure un chef avec les moyens qu'il a sur le plan de la communication, sur le plan de la présence à l'Assemblée nationale. Il a moins de temps de parole que la CAQ, donc la CAQ est mieux, à mon avis, d'aller là. Et la CAQ, d'ailleurs, je salue, en terminant, une chose, quand elle parle d'économie, Elle ne nous parle plus de grands projets comme Nordvolt ou autre
oui,
chose.
Oui, ça, c'est rafraîchissant.
Très bonne idée. Ah, parce ouais, que la CAQ a voulu se lancer là-dedans, ça a été un échec retentissant. On le sait, même si elle n'en parle pas, qu'il y a un gros chantier à Hydro-Québec. Mm-hmm. Pas besoin de revenir là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas se réconcilier avec la CAQ sur le plan des chantiers en économie, donc aussi bien ne pas en parler.
Ouais. Quand on parle d'identité, Rémi, ça laisse souvent place à du dérapage. Et là, tu veux nous amener vers un dérapage, justement, que tu as entendu sur les ondes de Radio-Canada. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est exactement ça. Donc, ça se déroule samedi. Je mets en contexte, après on fait jouer l'extrait.
Oui.
Ça se déroule samedi à l'émission « Tout peut arriver », une émission animée par Marie-Louise Arsenault. Elle reçoit à sa table Véronique Yvon, l'ancienne ministre du Parti québécois, mm-hmm. et une professeure, mais pas juste une professeure, c'est une doyenne de faculté de sciences politiques et de droit à l'UQAM, Rachel Chagnon. Et elle discute, puisqu'elles sont trois femmes, de cette idée du Parti québécois d'interdire les signes religieux chez les élèves dans les écoles primaires du Québec. On écoute.
Puis moi, je trouve qu'il y a une question aussi que je trouve un peu problématique. Bon, premièrement, est-ce que c'était un vrai problème, là? Est-ce qu'on a des milliers de jeunes enfants dans les écoles?
Mais t'en penses quoi de ça?
Ben, écoutez, je veux juste préciser, là, c'est pas Véronique Yvon qui parle, c'est pas Marie-Louise Arsenault, ouais. c'est Rachel Chagnon. C'est la doyenne, donc, de la Faculté de droit et de sciences politiques à l'UQAM. C'est une femme lettrée, primée sur le plan académique, qui enseigne la rigueur intellectuelle et l'importance de faire des nuances à ses élèves au bac, à la maîtrise et au doctorat. Et là, elle fait un lien, hein, parce que les enfants blonds aux yeux bleus, c'est la race aryenne. C'était le projet d'Adolf Hitler en Allemagne nazie.
En effet.
Donc, elle fait un lien. Elle fait un lien entre l'idée du Parti québécois d'interdire. Moi, je trouve ça flagrant. Il y a un point, il y a une loi que vous connaissez, vous deux, là, qui s'appelle le point Godwin. Hein?
Oui.
Donc, le point Godwin, ça veut dire que plus une conversation s'étire dans le temps, plus les chances que le fantôme d'Hitler ou du nazisme sont grandes et qu'ils surgissent dans la discussion. Plus une discussion dure, plus on va parler d'Hitler, c'est plus la probabilité est forte. Bien là, généralement, ça arrive lorsque deux personnes, disons, qui ne sont pas de grands connaisseurs, discutent de politique. Là, on parle de quelqu'un, c'est la crème de la crème sur le plan académique, c'est la crème de la crème sur le plan intellectuel, et ces gens-là ne sont pas capables de sortir des grands fantômes, des grands spectres de la peur. Alors, quand ce n'est pas Donald Trump est un fasciste, parce qu'on n'est pas d'accord avec Donald Trump, mm-hmm. c'est le PQ est fasciste, le PQ est nazi. Non seulement c'est décevant, mais ça nous empêche d'avoir une discussion.
Bien, c'est alors, ce que j'allais dire, Rémi. Ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'on ne peut plus débattre d'idées ou d'enjeux. On vient toujours le personnaliser au pire, à Adolf Hitler, à un fasciste. Ça me dérange, ça. Moi, j'aime ça, débattre d'idées, mais j'ai l'impression que je ne peux plus débattre d'idées dans notre société.
Oui, puis après, ça devient un peu compliqué de respecter ces interlocuteurs-là. C'est-à-dire que moi, je veux bien écouter n'importe qui, je veux bien m'asseoir avec n'importe qui, je veux bien donner la parole à n'importe qui, mais si n'importe qui, à la première contradiction, au premier malaise avec un projet ou une idée politique, dit « Ah, ben regarde, c'est pas compliqué », m'a faire peur aux gens, m'a leur parler d'Hitler, m'a leur parler d'un fascisme, m'a leur parler de quelqu'un de mal, ben la discussion ne se tient pas. Donc, il faut tous se calmer, le pompon. Oui. Si on revient, par exemple, à cette idée-là, en France, c'est appliqué dans les écoles primaires et secondaires. Ça s'appelle évidemment pas comme ça mm-hmm. là-bas, mais jusqu'au collège, l'université, il n'y a pas de signes religieux dans les écoles. Il y a plein de pays musulmans où, par exemple, le voile islamique est interdit à l'école. Donc, il faut quand même le mentionner, ça.
Et
ce
ne sont pas des pays
où le fantôme d'Hitler est présent, où Hitler aurait réussi l'exploit de ressusciter. Non, Hitler est mort et enterré, passons à autre chose.
Non, puis là, envoyez-moi en Allemagne si vous voulez, mais écoute, moi, je suis pour ça dans un État laïque qui n'ait pas de signe religieux visible en société.
Oui, mais le problème du Parti québécois, et ça fait des années que je le répète, c'est qu'ils ont décidé de continuer de parler de laïcité alors qu'il n'est plus question de laïcité. Parce que la laïcité, c'était défini comme l'État est neutre sur le plan religieux. Alors là, les adversaires d'une idée comme celle-ci disent, ben c'est quoi le rapport avec la laïcité? Les élèves ne sont pas des porte-parole de l'État. Alors le PQ s'est mis lui-même dans un piège. Ici, ce n'est pas une question de laïcité, c'est est-ce qu'on devrait voiler des petites filles de 8 ans? Est-ce qu'une
Clairement
petite fille
non.
de ou un enfant de 7-8 ans est libre et consentant de porter un signe religieux sur sa tête, ou n'est-elle pas le projet religieux de ses parents? Ayons pas peur des mots, ayons pas peur des idées politiques, il n'est plus question de laïcité.
Tu as entièrement raison, on devrait plus donner ce type d'exemple-là. Je pense que ça serait plus frappant. Et somme toute, ça pourrait empêcher des dérives hitlériennes sur les ondes de Radio-Canada.
Non, absolument. Puis, c'est ça le problème, parce que là, après, on doit réinventer la définition de la laïcité, mais on n'y arrive pas. La laïcité, c'est quand même ben, juste un concept avec une seule définition. Donc, ayons pas peur d'avancer, les temps changent. Et j'aimerais juste ça répondre à ceux qui disent qu'il n'y en a pas d'élèves qui portent des signes religieux sur la tête. Allez faire un tour dans les écoles primaires et secondaires de la région de Montréal. Je suis un ancien enseignant, j'ai travaillé dans plusieurs centres de services scolaires. Et dans certaines classes, il y en avait 2-3 élèves sur 30, quand même, dans une classe. Mm-hmm. Des filles de 7, 8, 9, 10 ans qui portaient un voile sur la tête. Pourquoi? Parce que papa ou frérot à la maison pense que c'est la chose à faire.
Oui, et je conclurai là-dessus, Rémi, pour ceux qui disent « Bah, c'est juste un problème montréalais, puis on ne doit pas faire du mur en mur. » Ça s'en vient. Donc, c'est tout simplement le régler pendant qu'il est seulement à Montréal. Réglons-le à l'échelle de la province plutôt que de faire semblant que ça va juste exister à Montréal pour la fin des temps.
Ah ouais, ben Jeff, Québec est une ville merveilleuse, mais je dois apprendre quelque chose aux gens qui sont des patriotes de la ville de Québec. La ville n'échappera pas aux grandes tendances.
Non.
Et c'est d'ailleurs une bonne chose. Québec n'est pas un petit îlot qui échappe au monde entier. Donc, ce qui arrive ailleurs va arriver à Québec.
C'est
Je
ça.
Je suis pas le prophète de malheur, mais ça s'en vient.
Exactement. On n'est pas le village gaudois avec la potion magique d'Astérix. Rémi Villemur, toujours un plaisir de te parler. J'adore ton franc-parler. On se jase jeudi.
Bye-bye.
Salut Rémi. À chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h, Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal, nous parle. Il y a toujours des points de vue fort intéressants. Son dernier, justement, sur le port de signes religieux dans les écoles primaires était très, très, très intéressant. Je vous parle de notre pool de hockey. Encore une fois, Boulevard 102.1 fait équipe avec la fromagerie Victoria afin de créer le plus gros pool de hockey de la saison 2025-2026. Faites comme moi, rendez-vous au blvd.fm pour cliquez sur l'hyperlien menant directement à notre pool sur marqueur.com. Je l'ai fait en fin de semaine. C'est super facile. Le grand gagnant du pool sera annoncé en avril à la fin de la saison régulière et il va remporter 500 $ à la fromagerie Victoria. Pas besoin d'être un pro de statistiques avancées pour participer. Tu as juste besoin de vouloir battre tes chums et surtout Max Larouche. Puis ça, c'est vrai. C'est toujours quelqu'un qui se connaît un peu moins qui gagne dans ce type de pool-là. C'est ce qui est le fun. Expert ou pas du tout connaisseur, inscris-toi sans complexe. On s'amuse tout au long de la saison avec le classement. On va vous tenir au courant. Les animateurs sont rendus à quel rang? Comme je suis super poche d'impôts, vous allez pouvoir rire de moi à l'année longue en plus de vous mériter le prix de 500 $ chez Fromagerie Victoria si vous êtes le grand gagnant. Bonne chance à tous. Vous avez besoin pour espérer mettre la main sur 500 $ chez Fromagerie Victoria familiale depuis 75 ans. Parlant de hockey, mon cher Mathias, il y a un gros match à soir au Centre Vidéotron.
Oui, match préparatoire des Sénateurs d'Ottawa qui seront à domicile face aux Canadiens de Montréal ce soir. Et justement, l'alignement du Canadien a été publié pour le match de ce soir. Beaucoup de déçus. Suzuki ne sera pas présent. Caulfield ne sera pas présent. Slavkovski ne sera pas présent. Donc, on décide de reposer le premier trio au grand complet. Mm-hmm. Décision qui ne fait pas beaucoup d'heureux. Certaines personnes disent même que c'est un manque de respect envers la ville de Québec.
Clairement.
Faut se dire qu'il y a quand même de gros joueurs, des joueurs intéressants. Domidov qui sera en action. Hudson qui sera en action également. Zachary Bauduc qui va être en action. On s'y attendait vraiment beaucoup.
Ben oui,
ça aurait été très étonnant. Mais ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on bouge beaucoup d'alignements. Donc, on va avoir, par exemple, un premier trio, Bauduc, Dak, Gallagher. Deuxième trio, Newhook, Kapanen, Demidov. Troisième trio, Veleno, Beck, Laine. Quatrième trio, Xhekaj, Evans, Anderson. À la défense, on a notamment Matheson, Hudson, Xhekaj, Carrier, Strouble qui vont être là. Et en plus, Engstrom également. Et pour rester dans le hockey, je tiens à vous rappeler qu'un contrat historique a été signé aujourd'hui. Énorme contrat. Kirill Kaprizov qui a signé pour 8 ans, 17 millions par saison. Donc, c'est énorme, 136 millions sur 8 ans pour Kirill Kaprizov.
On va rejoindre de ce pas Hugo Fournier, président directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. On va se prononcer sur le rapport de la coroner Nathalie Lefebvre et ses 9 recommandations à la suite du décès d'une jeune fille de 12 ans l'an dernier à pareille date qui s'était suicidée à la suite d'intimidation à l'école. Monsieur Fournier, ça va bien? Monsieur Fournier, est-ce que vous êtes là? Monsieur Fournier ne semble pas là, malheureusement. Donc, on va tenter là, de... On va tout simplement raccrocher comme ça. On va souhaiter qu'il rappelle. En attendant, je vais vous mentionner qu'à Boulevard 102.1, on parle des enjeux de notre ville et des décisions qui ont un impact dans votre quotidien. Le 2 novembre, Québec vote pour prendre une décision éclairée. Ne manquez pas le face-à-face marchand Hamad jeudi, le 2 octobre à 16h. C'est jeudi de cette semaine dans Gravel dans le retour. C'est animé par Denis Gravel. On va discuter de 5 grands thèmes, soit le transport et la mobilité, l'économie, la relation avec les gouvernements, itinérance et sécurité. Et on va surtout parler de Québec dans 15 ans. Soyez à l'écoute le 2 octobre prochain, 16h, sur les ondes de Boulevard 102. Je crois qu'on l'a. Monsieur Hugo Fournier sera au bout du fil. Monsieur Fournier, ça va bien?
Oui, bonjour, vous, ça va bien?
Ben oui, ça va super bien. Merci beaucoup de votre disponibilité aujourd'hui. J'en parlais là, d'entrée de jeu, c'était le rapport de la coroner Nathalie Lefebvre suite à un décès d'une jeune fille de 12 ans, victime d'intimidation qui s'est enlevée la vie. Comment trouvez-vous le rapport de la coroner?
Ben, dans un premier temps, je trouve que le rapport du coroner identifie les bonnes pistes. Et moi, ce qui m'impressionne dans le rapport du coroner, parce qu'on en voit plusieurs, c'est qui amène, je pense qu'il va amener à créer une dynamique de sécurité, une dynamique très active au niveau des jeunes et pour les jeunes, parce que les recommandations sont destinées à différents partenaires, autant le MEC, le MES, l'INSPQ que nous. Et moi, je pense qu'à terme, lorsqu'on va tous et toutes les partenaires mettre en place les recommandations avec des plans d'action, je pense que ça va créer cette dynamique-là qu'on cherche là, de prise en charge des milieux scolaires puis de soutenir les milieux scolaires en prévention du suicide.
Oui, en effet. Du côté des milieux scolaires, est-ce qu'on est assez bien outillé en prévention du suicide?
Il y a plusieurs choses qui se font en milieu scolaire. Hein. Les milieux scolaires, eux, se mobilisent, entre autres, dans certains programmes de postvention, dans certains programmes de sentinelle. Lorsqu'il arrive un décès par suicide, ben, ce qu'on veut hein, dans les milieux... où les jeunes sont présents, c'est de créer des milieux sécuritaires, d'éviter aussi, de favoriser plutôt des milieux où les gens vont exprimer et verbaliser leurs émotions. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui se font actuellement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le rapport du coroner, c'est qu'il nous prescrit de soutenir le déploiement de certains programmes comme Prévention et Sentinelle dans toutes les écoles. Et c'est ça, c'est important, hein. C'est une grosse nuance, pas une, trois, six, toutes les écoles du Québec. Donc, c'est vraiment une attaque massive pour aller soutenir ces milieux-là en collaboration avec les partenaires.
Oui, on n'a pas le choix parce que l'intimidation ne s'arrête pas dans les écoles secondaires. Même, je dirais qu'elle est peut-être un petit peu en hausse. Et justement, la coroner parle de sévérité envers les intimidateurs. Est-ce qu'on est assez sévère envers eux pour faire en sorte que ça diminue, ce phénomène-là?
Ben oui, puis... Votre question est très bonne, hein, parce que souvent, l'intimidation, bien évidemment, se fait virtuelle, elle se fait en dehors des murs de l'école, mais l'école, c'est un milieu de vie à l'intérieur duquel nos jeunes passent quasi la majorité de leur temps. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'on peut repérer la souffrance et la détresse. Moi, je pense que vraiment, là, l'angle, c'est de dénoncer. Il faut que les jeunes aient des exemples probants. Il faut que les jeunes aient des cas vécus que dénoncer, ça donne quelque chose. C'est pas juste... Parce que souvent, il y a la peur. Il y a vraiment l'angoisse reliée au fait des menaces si tu dénonces. Mais oui, dénoncer, ça peut marcher parce que l'intimidation et le cycle relié à ça peut arrêter. Moi, j'ai des exemples probants proche de moi que les jeunes ont dénoncé et ça s'est résolu. Et quand les gens dénoncent pas ou quand les gens ont peur, hein, toute l'espèce de peur liée à ça, ben le danger, c'est que la spirale d'isolement, les jeunes se replient sur eux-mêmes, sont terrorisés. Et là, le désespoir peut faire son apparition. Donc, il faut aller en amont et dénoncer. Et il faut que le milieu puisse recevoir ça aussi.
En effet, moi, je suis parent de deux adolescents, mais un qui va devenir adulte. Puis j'ai été chanceux, là, au secondaire, ils sont dans des programmes de football. Puis je dis toujours qu'il n'y a rien de mieux qu'une équipe de sport pour se protéger un et l'autre. Ils ont leur gang, ils se promènent dans les corridors. Puis même quand tu joues au football, tu es souvent le kingpin de ton école. Mais si je suis parent d'un enfant, justement, qui est plus isolé, puis là, je me dis, hey, il a l'air à se passer de quoi à l'école? Me semble qu'il file pas, je le sens vraiment pas dans son assiette. Comment je fais en tant que parent pour aborder cette situation-là puis aborder des idées, même d'idées noires là, que je vois chez mon enfant?
Oui, c'est une très bonne question. Puis comme vous le mentionnez, on est plusieurs à être parents. Puis même moi, j'ai quatre filles et souvent, on devient très vite inquiet. Et on est les premiers à pouvoir repérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous l'avez très bien dit, notre jeune s'isole, la chute des notes scolaires, la tristesse alimente moins. Ce qui est difficile pour nous parents, c'est qu'on peut pas être intervenant. On a l'émotion qui embarque là-dedans, puis le jeune n'a pas nécessairement le goût de se confier à nous. Toutefois,
non, en effet.
Toutefois, on peut quand même, puis il faut quand même, tu sais, aller voir notre jeune dire « ça va pas, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, veux-tu me parler? » Puis tu sais, des fois, le jeune va dire, tu sais, il va bougonner, puis « non, j'ai pas le goût », mais on peut appeler comme parent aussi de l'aide, hein, parce que c'est lourd à porter sur notre épaule. Les parents, on peut texter, on peut appeler, pardon, au 1-866 appel et demander des petits trucs et demander quoi faire dans cette situation-là. On peut texter 5-3-5-3-5-3 et on peut aussi dire à notre gars ou à notre fille, regarde, je sais peut-être que je vais être tu m'en parleras peut-être pas, t'as pas le goût. Mais gars, appelle à ce numéro-là, 1-866. Mm-hmm. S'appelle, on peut lui donner le texto 5-3-5-3-5-3. Nos jeunes ados, ils vont être très à l'aise, j'en suis persuadé, de texter clavarder.
Clairement.
Et on peut leur dire, va sur suicide.ca parce qu'il y a des intervenants qui sont l'autre bord du cellulaire ou l'autre bord de l'écran. Je pense qu'il faut faire ça, moi, comme parent, et ça nous dégage un peu là, de devoir entrer en relation d'aide. C'est pas la job du parent, mais de donner les bonnes ressources et d'amener le jeune à appeler et à texter, oui, ça, c'est tout à fait.
C'est un excellent point, M. Fournier. On retient toutes ces bonnes pratiques en tant que parent. Je suis certain que vous venez d'outiller énormément de parents parmi nos auditeurs. Hugo Fournier est président-directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Je vous remercie infiniment pour votre temps cet après-midi avec nous à l'émission
On en jase.
Au plaisir
merci
de beaucoup. Se reparler puis continuer votre excellent travail. Vous sauvez des vies à chaque jour et ça, c'est tellement précieux. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. C'était Hugo Fournier. J'ai tellement d'admiration pour l'association, justement, québécoise de prévention du suicide, le Centre de prévention du suicide. C'est des gens qui travaillent pour les personnes et qui sont des véritables missionnaires dans notre société. On fait une courte pause et par la suite, Mathias, ça va être sa dernière entrevue avec nous. L'ex-maire de Lévis ou le maire actuel, parce que je pense qu'il y a un conseil de ville ce soir, Gilles Laulier, qui est en sa tournée d'adieu médiatique. J'ai très hâte de parler avec M. Laulier, voir à quel point il est serein avec sa décision.
Ça fait bizarre parce que, je sais pas, moi, je suis très jeune, j'ai 21 ans. D'aussi loin que je me rappelle d'avoir conscience de l'environnement politique, c'était M. Laulier qui était maire de Lévis. Puis je pense que je pense que même si on a certains auditeurs qui sont beaucoup plus âgés que moi ou un peu plus âgés que moi, selon moi, même eux, ils ont de la difficulté à se rappeler quand c'était pas M. Laulier à la mairie de Lévis. Donc, c'est quand même spécial de le voir partir.
418-971-1021. On a beaucoup d'auditeurs sur la rive sud. Un petit mot pour M. Laulier. Ça va me faire plaisir de les lire en ondes. 418-971-1021. C'est Gilles Laulier qui vient s'asseoir avec nous. Retour de la pause. Vous êtes sur Boulevard 101, l'émission On en jase. Ah, que c'est plaisant. La discussion est déjà amorcée à plein régime avec le maire actuel de Lévis qui sera bientôt l'ex-maire de Lévis parce que c'est dernier conseil municipal demain à Lévis. Mais avant, Mathias, il y avait un camion en panne pont de l'île d'Orléans. Qu'est-ce que ça dit sur la circulation?
Oui, donc camion en panne sur l'île d'Orléans en direction nord. Donc présentement, ça cause forcément un ralentissement sur le pont de l'île d'Orléans dans cette direction-là. Également, un ralentissement sur Duplessis, direction sud, lorsqu'on arrive par Henri IV pour prendre Duplessis. Ralentissement plutôt inhabituel à cette heure-là. Donc si vous avez des informations, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. Monsieur Laulier, si on avait notre troisième lien, là, on serait correct? C'est pas grave, l'accident sur le pont de l'île d'Orléans?
Bien, c'est sûr que ce serait plus rapide pour relier les rives entre elles, n'est-ce pas?
Exactement. Vous comprenez qu'il fallait bien que je vous taquine avec ça d'entrée de jeu. Merci d'être ici aujourd'hui.
C'est une bonne idée
passant
de me taquiner là-dessus parce qu'on n'arrêtera pas d'en parler.
Non, c'est ça. Hein?
Même si je quitte la politique, c'est le dossier que je vais m'assurer qu'à un moment donné, ça va rester un enjeu. Ça restera toujours un enjeu. Puisque, au fond, je crois en la nécessité d'un lien autoroutier entre les deux rives. Évidemment, les gens ont parlé des enquêtes origine-destination. Je suis tout allé voir ça.
Oui.
Et il reste quand même que les deux dernières enquêtes origine-destination, on est au même point. 80 % des gens utilisent l'automobile. Ça ne changera pas. Si on fait des transferts modaux, même en ajoutant le tramway au niveau du transport collectif, on va ajouter que 3 % de transferts modaux. On va investir 15 milliards de dollars dans le transport collectif pour faire transférer 3 % du transport des gens. Alors, je veux juste vous dire une chose. Le lien autoroutier va demeurer une nécessité. C'est rendu maintenant qu'à toute heure du jour, il y a des files d'attente pour traverser le pont La Porte. Alors donc, c'est inacceptable.
Ça vous fait-tu peur, les délais, autant pour la région de Chaudière-Appalaches que la région de Capitale-Nationale? Puis je vous explique, parce qu'en 2037, il va falloir refaire le tablier du pont Pierre-La Porte. On n'aura pas de troisième lien si on continue à niaiser comme ça.
Bien, c'est le problème. C'est le problème d'une grande région qui, en plus... c'est la capitale nationale, c'est la capitale du Québec.
Ben oui.
Alors, essayons d'imaginer simplement qu'il y a une seule traversée entre les deux rives. Ben moi, je pense qu'on est à l'âge de pierre et normalement, ça ferait longtemps que ce projet-là, la CAQ a pris l'engagement en 2018, il y en avait des solutions qu'on aurait pu mettre à exécution facilement. Je vous donne un exemple, le pont de l'île d'Orléans. Vous rencontrez, il y a quelques milliers de personnes à l'île d'Orléans, vous leur dites, nous, on n'investira pas 3 milliards pour un pont qui dessert quelques milliers de personnes. On va traverser l'autre bord.
Exactement.
Il y en avait des solutions.
Il a manqué de courage politique.
Il a manqué on a manqué de courage politique. Puis en plus, c'est le porteur de ce dossier-là qui l'a brûlé.
Ouais. Alors,
aujourd'hui, le dossier est brûlé. C'est que, dans le fond, quand on regarde ça, t'as les gens qui sont contre le troisième lien, en particulier là, le groupe de Montréal, mais pour le reste, t'as le deux tiers de la population, donc à Québec et à Lévis, qui sont en faveur du troisième lien, mais même eux, quand je leur parle maintenant, ils ne croient plus aux porteurs de ballon du dossier, du projet. Pourquoi? Parce que ça a été le chaos depuis 2018, le plus total, alors qu'en réalité... Les travaux devraient déjà être en cours.
En effet, vous avez entièrement raison. Il y a des maires qui cherchent souvent à être populaires puis qui réussissent pas. Vous, vous avez réussi à transcender les années et à demeurer populaire malgré le fait qu'à un moment donné, vous avez haussé les taxes de 7,7% puis qu'il y a un moratoire sur la construction. C'est quoi votre recette, M. Lehoulier? Il y a plein de maires qui veulent la savoir.
Bien, la recette est très simple parce que vous avez raison. Tu sais, quand après trois mandats, tu finis avec un score de 70 % de popularité.
Ah oui, c'est quand même, phénoménal.
C'est quand même assez impressionnant.
Et c'est tout en votre honneur en passant. J'ai énormément de respect.
Bien, moi, je le dois d'abord et avant tout à la population lévisienne. Je le dois à nos intervenants dans le milieu social, culturel, communautaire. Moi, ma grande force, c'est de rester au niveau du monde, rester avec le monde. Alors, ça, pour moi, c'est important. Moi, je suis moi-même issu d'un milieu ouvrier. On est à 11 enfants chez nous. On restait dans une petite maison 20 par 20. Tu sais, alors, c'était pas très grand. Mais j'ai pu compter sur l'appui des voisins dans ce temps-là. Les quartiers, c'était très animé. Les voisins étaient très aidants. Et j'ai pu me rendre, malgré les périodes de chômage à la maison, bien, j'ai pu quand même faire mon diplôme universitaire, un bac, etc. Mais je suis toujours resté près des gens. Et moi, j'ai toujours véhiculé ces valeurs-là, je les transporte en moi, les valeurs d'entraide, de solidarité, de mobilisation. Puis c'est ça qui fait la force de Lévis. C'est une ville qui porte haut et fort ces valeurs-là. Alors ça, moi, c'est ce qui m'a suivi dans tout mon parcours. Puis au fond, je suis pas un maire flamboyant dans le sens, en termes de personnalité ou autre. Mais il y a une chose, par contre, que je sais ce que souhaite la population lévisienne et j'ai toujours fait deux choses. La première chose, l'intérêt collectif passe par-dessus tout. Moi, mes actionnaires, là, c'est pas tel promoteur qui fait du développement à Lévis ou tel autre promoteur. Moi, mes actionnaires, c'est la population lévisienne. Vous avez parlé du taux d'augmentation de 7,7. C'est vrai que là, il y a une petite erreur de parcours qui est due au fait que le développement de Lévis est tellement phénoménal qu'à un moment donné, il a fallu ralentir le rythme. Mais le problème, c'est que les villes en forte croissance sont soumises à une pression sur les dépenses incroyable, un peu comme l'entreprise qui grossit, dans le fond. Alors donc, et ça, il faut vraiment regarder dans le rétroviseur et s'assurer qu'on est capable de prévoir les coûts. Alors, mais il reste quand même que je savais que même avec cette augmentation de taxes-là qu'on a eue une seule année, il reste quand même, et c'est ça pourquoi les gens de Lévis sont heureux, c'est pour une simple raison, c'est qu'on est quand même la ville avec... La deuxième ville la moins taxée des 10 grandes villes.
En effet, Québec, ça, là, Montréal, les auditeurs me le rappellent toujours par texto. Ils disent « Vous voulez savoir pourquoi je l'aime, le maire Leaulier? Je ne suis pas taxé. »
C'est ça. On est la deuxième ville la moins taxée. Et moi, je veux qu'on maintienne ce rythme-là. Pour maintenir ce rythme-là, il va falloir qu'on fasse une chose. C'est que le citoyen à Lévis, à cause du développement phénoménal qu'on connaît, lui est prêt à payer pour la pérennité des infrastructures, l'entretien des aqueducs, des égouts existants. Mais il ne veut pas payer seul toutes les infrastructures de développement qu'il faut mettre d'avant pour favoriser le développement et arriver et les nouveaux arrivants. Écoutez, dans les 8-10 dernières années, au-delà de 20 000 nouvelles personnes se sont installées à Lévis. Imaginez-vous, c'est 4, 5, 6
Puis là, ça va continuer avec le chantier des vies, qui a des contrats, ma foi, jusqu'en 2040. C'est incroyable. Là, chantier des vies, on parlait aussi de réaménager les terres Rabaska là, pour aider le chantier des vies. C'est encore dans les cartons, ça?
Ah, c'est encore dans les cartons, mais sauf que là, et c'est là, quand vous dites qu'est-ce qui fait le succès, c'est qu'il faut tenir compte, à un moment donné, des enjeux d'un peu tout le monde. Et il faut être ouvert aussi. Les groupes de pression, souvent, hein, les gens disent « Ah, ben ça, c'est une contrainte pour nous au niveau... » Non, des fois, moi, je les écoute. Je vais même prendre une bière avec eux de temps en temps. Puis, tu sais, à un moment donné, on échange. Alors, vous parlez des terres de Rabaska. L'élément le plus extraordinaire qui va arriver avec les terres de Rabaska, je l'ai annoncé dans le cadre de ma conférence devant la Chambre de commerce sur la construction navale, c'est qu'il va y avoir les deux tiers du site qui vont être conservés, soit des fins agricoles, soit des fins récréo-touristiques, même des zones de conservation, imaginez-vous. Et le tiers va être conservé aux industries de la construction navale et autres, et ça va être concentré le long de l'autoroute 20 à plusieurs kilomètres des résidences.
Donc, un bel équilibre.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on développe les parcs industriels de demain. Mais pour développer les parcs industriels de demain, il faut tenir compte de la pensée évolutive des gens, comment ils voient l'avenir de nos parcs industriels. Et il faut s'adapter à ces réalités nouvelles-là. Alors, je pense que c'est ça la force d'un maire, être capable d'aller chercher les consensus, être capable de donner la direction aussi. Malheureusement, on l'a vu, on le voit dans certaines municipalités, quand tu ne donnes pas la direction, quand tu ne dis pas où tu t'en vas, puis autour de la table, il y a des conseillers qui pensent différemment. Alors moi, depuis que je suis là, je n'ai pas eu une seule défection d'un seul conseiller municipal. Pourquoi? Je fais des caucus toutes les semaines, tous les 15 jours avec les membres et je leur dis, dites-moi ce qui se passe dans votre quartier, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Alors, il faut être à l'affût de ce qui se passe constamment et surtout, d'être capable de prendre un petit break pour éviter justement qu'on... moi, je veux qu'on garde le rang numéro 2 des villes les moins taxées des grandes villes.
Votre plus grande fierté après toutes ces années à la tête de Lévis?
Ah ben, il y en a deux, la construction navale, parce que ça, c'est le premier mandat que j'ai eu, imaginez-vous, comme conseiller municipal.
Et ça a été un dossier que ça a travaillé en longueur. Si je ne me trompe pas, par exemple, Bernard Drainville a fait un méchant bon travail.
Ah oui, définitivement. Faut rendre hommage à Bernard Drainville pour... toute l'intégration de la Lévis dans la stratégie canadienne de construction navale, c'est Jean-Yves Duclos. Moi, je suis très reconnaissant pour ce que Jean-Yves Duclos a fait. Et le deuxième personnage politique important, ça a été Bernard Drainville qui a favorisé la mise à niveau du site, l'acquisition du chantier finlandais qui va permettre au chantier Lévis d'apprendre une grande avance au niveau technologique sur les deux autres chantiers canadiens. Vous allez voir, ça va être fantastique. Et Davy a même acquis récemment un chantier américain, imaginez-vous, au Texas, un chantier de 1500 employés. Alors, au niveau de la Davy, là, ça va être le plus gros projet manufacturier jamais vu dans l'histoire de la région de Québec.
Incroyable.
Et moi, ça fait 39 ans, donc, ce que je disais tantôt, c'est le premier comité sur lequel j'ai été nommé, comité permanent Industrie Davy, que ça s'appelait. Lauzon était une ville, imaginez-vous. Et après, il a fallu attendre 39 ans. Mais 39 ans, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 39 ans-là? Une seule job, maintenir le site ouvert.
Oui,
aller chercher des petits
contrats.
Ça
n'a pas toujours été évident,
à gauche et à droite. Mais parce que, imaginez-vous, un site comme ça qui aurait fermé dans les années 90, c'est impossible de développer avec les lois environnementales un site comme ça le long du fleuve. Hey,
vous avez raison, je n'avais pas pensé à ça.
C'est incroyable. Et ça, aujourd'hui, ce site-là va être la bougie d'allumage de tout le redéploiement manufacturier de la grande région de Québec. Et dans un contexte de tarification avec les États-Unis, l'avantage, c'est 13 milliards de contrats minimalement à la clé, mais ces 13 milliards de contrats-là devront avoir, tenez-vous bien, 80 % de contenu canadien. C'est 1000 fournisseurs qui vont graviter autour du chantier. Essayez de vous imaginer l'impact que ça va avoir. Et savez-vous quel va être le salaire moyen d'un travailleur à la Davie? Va osciller entre 89 000 et 93 000 $ par année.
Extraordinaire.
Alors, là, on crée des emplois à valeur ajoutée,
ouais.
Sans compter
on
les
crée de la richesse en même temps dans la région.
Ouais. Et ça va faire en sorte également que Lévis va poursuivre son développement. Un autre élément clé pour lequel je suis très fier, c'est de s'être dit, au niveau du volet qualité de vie, on va utiliser le fleuve et nos affluents, la rivière Etchemin, la rivière Chaudière, et on va unir tous les quartiers entre eux avec ces magnifiques parcs linéaires qui longent les cours d'eau. Alors, ça va très bien, il reste encore des choses à faire, mais je peux vous dire, on a franchi un pas de géant à un point tel où maintenant, les gens peuvent partir, petite famille peut partir de Brékéville en vélo, longer la rivière Chaudière, traverser dans avec l'emprise ferroviaire qu'on a transformée en piste cyclable. Saint-Jean-Chrysostome, longer la rivière Etchemin jusqu'au fleuve, Saint-Romuald, Lauzon, Lévis, Kepaquette. Et on a fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la 20, tout le monde la voit quand on passe sur l'autoroute 20 en direction est, la magnifique passerelle à trois arcades pour le vélo. Alors ça, pour moi, c'est une source de grande fierté parce qu'enfin, on a redonné à la ville de Lévis une identité avec le Quai Paquette, des lieux où les gens de Lévis peuvent se rassembler. Et ça, pour moi, ça a été un élément vraiment qui a marqué ma carrière politique. Et je peux vous dire que le taux de satisfaction est extrêmement élevé auprès de la population. Puis mon dernier point,
c'est oui, allez-y.
Toujours avoir un principe fondamental en politique. On est là pour stimuler le dynamisme du milieu, l'accompagner, pas s'y substituer, ouais. Encourager les gens et faire une chose qu'on ne fait pas assez souvent auprès de nos organismes du milieu, nos entrepreneurs, nos gens qui font du développement, maintenir le rêve. Et croire qu'on peut réaliser de belles
croire
choses.
Croire que Lévis pouvait devenir cette grande
devenir
ville-là.
Plus prospère. Et aujourd'hui, ouais. On est numéro un pour la croissance économique, imaginez-vous, numéro un pour la qualité de vie et numéro un pour l'indice de bonheur. Alors, on ne peut pas demander mieux que ça, mais il y a des défis quand même à relever. Mais l'avantage pour ceux et celles qui vont venir à la ville de Lévis, les assises sont solides, mais je dis à tous ces élus-là qui vont prendre le relais, fiez-vous à la communauté lévisienne. Appuyez-vous sur cette communauté-là et vous allez continuer à aller très loin.
Il nous reste à peu près une minute. En une minute, là, à l'extérieur, de l'extérieur, nous, on voyait votre relation avec l'ancien maire de Québec, Régis Labombe, être en compétition, une bonne bagarre. C'est-tu comme ça que ça se passait ou vous étiez amis avec Régis Labombe?
Bien, on a déjà été très amis. C'est sûr que le SRB, le dossier du SRB nous a un peu éloignés.
Oui.
Cela étant dit, moi, je connais bien la personnalité de M. Labombe et j'ai pas d'amertume. J'ai pas d'amertume parce que je pense que Régis Labombe a fait beaucoup pour sa ville. Il l'a fait avancer, il l'a propulsé. on parlait il y a quelques semaines, on parlait de l'amphithéâtre à Québec. Moi, je pense que c'est une superbe, belle réalisation. Essayez de vous imaginer que si Régis Labombe n'avait pas réussi ce projet-là, de quoi aurait l'air notre capitale?
En effet.
Sans amphithéâtre, même pas capable de donner des spectacles d'envergure internationale, d'attirer des vedettes du monde entier. Alors, c'est quelque chose de marquant. Alors, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les réalisations qu'il a fait à Québec.
Ah, chose certaine, M. Laulier, autant vous que M. Labombe allez avoir été des maires marquants pour chacune de vos municipalités. Merci pour vos années en politique. Je suis certain que les Lévisiens et Lévisiennes sont très heureux de votre passage. Merci d'avoir consacré une bonne partie de votre vie parce que vous êtes rendu à 72 ans. C'est l'heure de la retraite, hein?
Je pense que oui. Et là, on planifie prochainement un petit voyage VR de 3 mois. Imaginez-vous, enfin, oh, je vais pouvoir me permettre un petit 3 mois, là, donc...
Profitez-en.
On va partir avec notre petite roulotte, qui n'est pas très grosse, là, mais on va partir avec notre petite roulotte à l'aventure, 3 mois, donc j'ai bien hâte, et après, on verra.
Profitez-en, M. Lehaulier, c'est pleinement mérité. C'est ce qui met fin à l'émission On en jase. Mathias, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la circulation?
Non, juste rappeler la rentrée parlementaire qui se fait en ce moment, là, justement, le discours de François Legault qui va commencer à partir de 14h. Sinon, côté circulation, juste quand même mentionner le camion qui est en panne sur le pont d'Orléans direction nord, qui rend la circulation difficile dans le secteur.
Le retour de Gravel suit à l'instant. Nous, on se reparle demain à midi. Merci beaucoup d'être à l'écoute de Boulevard 102.1. À demain, la gang!